Ouais, t'as plein de choses à faire cet après-midi, c'est pour ça. Ouais, on fera venir les retardataires. Alors, dans la suite de la réflexion, et en écho à ce qui s'est dit ce matin, il n'était pas possible qu'une réflexion sur le numérique, l'éducation à l'espace Mendès France se fasse sans que le lieu multiple et les partenaires de l'espace Mendès France historique soient là. Donc, en fait, ce qui importe, en écoutant nos partenaires institutionnels, ce qui importe, c'est de montrer que dans un lieu d'éducation ou de complément à l'éducation de culture scientifique, ne peut en fait se passer de la présence, au-delà de la question de l'art, surtout de la création, de la réflexion sur la création et de la notion de diffusion. Je me suis rendu compte, et c'est une discussion qu'on a souvent avec Patrick, quand on est confronté à des dispositifs, hein, genre des appels à projets, à quel point le rapport entre création, expression artistique et diffusion est mal compris, mal perçu par nos interlocuteurs. Donc là, il y a un premier point sur lequel je sais que vous allez revenir. Et le deuxième aspect, c'est sur la dimension imaginaire, sur la dimension d'éducation populaire, mais également de culture populaire. Hein. On parle du cinéma, du jeu vidéo, de la littérature. Vous pouvez avoir un complément de réflexion pour tout le monde dans les rapports. Là, dans le titre, il y a marqué « Pour l'art et la culture dans le, entre guillemets, numérique hein, ». Voilà, donc, faut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui est à côté et qui vit en parallèle, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'intégrer dans une symbiose, pour reprendre une terminologie chère à nos amis biologistes, une symbiose entre les différents réseaux. Voilà, donc, pour nous aider, mais vous connaissez tout le monde, Patrick Tréguer, responsable du lieu multique, Véronique Bellan, avec qui on travaille depuis de nombreuses années et qui a fait de belles propositions ici, et Sylvie Deligeon, directrice de RURART, structure avec laquelle l'espace Mendès France a un lien organique, amical, depuis très longtemps. Tu commences, Patrick ?
Oui, je vais lancer le débat. Bon, je vous remercie pour votre présence. C'est toujours important de pouvoir échanger sur les sujets que vient d'évoquer Didier. Je remercie aussi la présence d'artistes. Je crois que c'est important parce qu'on parle du champ culturel, mais le champ artistique doit être considéré à sa juste valeur et par la richesse de sa présence. Et ce réseau culturel actuellement également en plein dans un schéma d'interrogation profond. Je suis étonné, ce matin on n'a pas parlé par exemple des industries culturelles, vocable qui a été inventé, rappelons-le, en 1947 par l'école allemande de réflexion sur le devenir de la culture. Et donc cette crise actuelle de la culture, on en parle souvent avec Didier, de savoir la culture, où est-ce qu'elle peut se positionner, d'abord de quel nom parle-t-on quand on parle de culture, hein, je reviens sur cette notion d'industrie culturelle, et puis surtout le maillage qu'on peut établir avec l'éducation. Alors c'est vrai que nous, moi j'étais un peu embêté avec ce mot tech, hein, je vais revenir dessus parce que voilà, je ne suis pas un spécialiste de cette chose-là, je crois que inconsciemment je n'ai pas envie de devenir un spécialiste de cette chose-là, j'expliquerai pourquoi. Mais c'est s'interroger, et à Poitiers on a toujours eu cette chance d'avoir cette porosité entre le monde de l'éducation, le monde de la culture et le monde artistique. Simplement situer qu'on est dans un contexte à Poitiers où, et je cite souvent cette anecdote parce que quand je suis allé intervenir au Québec, quand j'ai présenté les budgets que la ville de Poitiers, là je ne fais pas d'électoralisme hein, en parlant de ça, c'est une réalité vécue, mais quand j'annonçais que la ville de Poitiers mettait 25% du budget municipal sur la culture, les Québécois, à la fin de mon intervention, sont venus me voir en me disant « mais tu t'es trompé, c'était pas 26%, c'est 2,6%. » Et j'ai bien précisé que c'était 26%. Donc, qui montre bien qu'on a un terreau où, d'un point de vue économique, hein, ça traduit aussi une volonté de soutenir des projets culturels, on a affaire à quelque chose où les territoires sont inégaux devant cet accès à la culture. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, avant de commencer cette intervention, je tiens à revenir sur, sur mon parcours. Hein. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste. Je me considère vraiment comme un généraliste. Je défends cette notion de création numérique et de culture. Alors, culture numérique, je ne vais pas rentrer dans le débat, on l'a eu souvent. Personnellement, je pense qu'elle existe, mais je crois que c'est au final un faux débat, que la culture numérique est une part de la culture de façon générale. Que tout ça, on le fait encore d'une façon assez particulière, c'est de le faire dans un centre de culture scientifique. Je ne reviendrai pas sur la dichotomie qui existe et qui, je pense, existera toujours entre culture et culture scientifique. Il n'y a pas de mur, mais il y a une porosité qui est parfois un peu difficile à établir. Je le fais depuis 20 ans, je le précise, parce que cette temporalité, c'est aussi préciser certaines affirmations que je vais poser par la suite. J'ai une formation en pédagogie et outils numériques que j'ai fait à l'université de Poitiers et qui m'a permis de rencontrer l'équipe de Jean-François et de pouvoir échanger pendant tout ce temps. J'ai une vision quand même aussi de la production. Souvent avec Didier, je parle de production, de coproduction, de projets, mais de projets culturels et artistiques. Et j'ai eu la chance de faire cette formation pour monter des projets au niveau européen, ce qui permet aussi d'avoir une vision un peu du réel, de ce qu'est notre façon de monter les projets. J'ai également une expérience artistique que je continue tant que faire se peut. C'est important aussi pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Les artistes sont des personnes qui nous emmènent de bonnes idées, mais d'un point de vue social, il est important de prendre en compte aussi leur statut. Je crois que c'est important, quand on fait une résidence, par exemple, c'est de penser qu'un artiste, eh ben, il faut l'héberger, un artiste, il mange. Voilà, c'est toutes les petites choses de la logistique dont nous prenons vraiment soin, parce que ça nous paraît aussi important, n'est-ce pas? On en parlait... Et puis enfin, le fait d'avoir fait ce travail avec un immense plaisir et pendant 20 ans, c'est une grosse interrogation sur les phénomènes et les effets de mode que nous subissons, comme dirait la chanson, sur la façon de nommer les choses, parce qu'on a eu le droit à edutainment. À un moment, à Poitiers, on entendait parler toutes les 5 minutes d'edutainment. Ce vocable semble avoir un peu disparu, ça s'efface. Ludo-éducatif, ça c'est l'époque... dans les années 2000, on parlait de ludo-éducatif, maintenant de head-tech, et c'est de se dire derrière ce vocable, d'un point de vue sémantique, qu'est-ce que veulent dire ces choses-là et qu'est-ce qu'on sous-tend par ces présentations. Donc comme disait Didier, d'où je parle, ben moi mes questions au jour le jour ici, c'est le choix des outils, ça a été évoqué ce matin. Mais le choix des outils, un des facteurs, et Marielle est revenue dessus, c'est aussi ces critères d'appropriation qui sont multiples et subtils parfois. Le développement des usages, et on oublie souvent le temps des usages, c'est-à-dire que pour nous, et vous verrez pourquoi je parle de ça, parce que je vais prendre un cas particulier où la temporalité est particulière et extrêmement importante pour mener à bien un projet, c'est dans la deuxième partie où je vais aborder cela, c'est la typologie des publics. Et la difficulté de travailler sur cette approche de grand public. Là, on a parlé de public scolaire, des lycéens, on a des programmes, on voit. Mais quand on est dans le grand public, c'est comment on fait un atelier intergénérationnel. Sujet éminemment intéressant de pouvoir travailler à la fois avec des enfants, avec des personnes âgées, comment ça se mène, comment on le prépare. Et puis, voilà, et c'est là où je pense que les chercheurs ont du pain sur la planche sur ces questions de typologie grand public. Avec un mot aussi qu'on tient à défendre, et je pense qu'il va être abordé, c'est le terme de médiation. Donc on parle souvent de pédagogie, mais la médiation, où ça se situe? Alors cette espèce de mot ambigu, hein, on passe notre temps depuis 10 ans à essayer de définir la médiation, mais je crois qu'il faut l'associer, par exemple sur la médiation numérique, je crois qu'il faut l'associer au public et au territoire. C'est-à-dire qu'en termes de public, on voit que la médiation nous oblige à réfléchir des programmes différemment, autrement en tout cas. Et puis, comme je l'ai précisé, à la fois dans le champ culturel et ou dans le champ de la culture scientifique. Alors actuellement, on travaille sur un volet, c'est le volet qu'on appelle, et je le mets bien entre guillemets, art et science. C'est aussi d'essayer d'hybrider et de décloisonner ces questions de problématiques dans le champ culturel et dans le champ artistique et scientifique. En gros, l'idée à Réscience, c'est de pouvoir faire sur un domaine de réflexion, sur un projet de laboratoire, parce que c'est une forme de laboratoire, de pouvoir faire collaborer un artiste ou un collectif d'artistes avec un chercheur ou un laboratoire. C'est quelque chose qui est en train de réémerger, mais quelque chose de fondamentalement pas nouveau. C'est sous-jacent dans nos sociétés et qui ressort et qui disparaît avec des cycles. Et en ce moment, il semblerait qu'en France, il y ait une vraie poussée sur ces questions-là. Comment nous, on organise ça ? Très concrètement, on travaille pour aller dans la logique et la concrétisation, dans le principe de résidence de création. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup de centres de culture scientifique à pouvoir organiser cela dans le domaine du art et science, de la création numérique, de la diffusion sonore. Deuxième volet, on fait de la diffusion artistique et culturelle qui nourrit le débat de ces résidences autour de la création numérique et autour de la création sonore, ce qui nous emmène à faire de la médiation, de rencontrer les publics et en présence des artistes. Ça, c'est extrêmement important, c'est d'avoir le langage de l'artiste et de créer une sorte de tissu entre l'artiste, le lieu qui accueille, et puis bien évidemment les publics qui viennent pour, soit par curiosité, soit parce que c'est un sujet où il y a déjà une sensibilité. Et puis après, on peut se déplacer aussi en direction des publics. Alors public, on a le point commun avec ce qui a été vu ce matin, collégiens, lycéens. Mais il y a aussi les adultes, les handicaps. Je mets toujours handicap avec un S, j'ai vraiment du mal à le mettre au singulier. Et les seniors, pareil, les seniors, parce qu'on a fait une espèce de différenciation qui nous est parfois reprochée, mais on travaille beaucoup avec les femmes de plus de 70 ans parce que c'était au début un projet artistique qui est devenu un projet qui est resté. Et une des raisons, c'est parce que il y a encore 5-6 ans, quand les femmes se mettaient devant un ordinateur, il était sûr qu'au bout de 10 minutes, il y avait un homme pour les virer et dire c'est nous les maîtres du jeu, on prend la souris et on va vous expliquer comment ça fonctionne un ordinateur. Voilà, donc je pense que ça a un peu changé, mais ça reste encore un peu sensible. J'y ai mis quelques photos, ça c'est des photos d'ateliers qu'on fait pendant, je reviendrai dessus, sur les pôles de ressources éducation artistique et culturelle. J'aime beaucoup cette photo parce que c'est un robot et le hasard, et c'est très bien, c'est ce qu'on appelle l'effet des mots. Ce jour-là, le robot qui venait d'un organisme compétent, mais voilà, c'est l'effet des mots, il était en panne. Et ça n'a pas empêché de faire l'atelier avec un robot en panne en travaillant sur un travail d'équipe et sur la question physique et de représentation du corps à travers le corps du robot. Donc l'atelier est passé d'un atelier robot à un atelier très sensible dans le sens profond et artistique qui a complètement modifié la donne. Ça, c'est un atelier qu'on fait, je reviendrai dessus, vous le verrez en vidéo avec... souvent avec des personnes en situation de handicap. C'est un petit peu l'idée générale, c'est de faire des systèmes informatiques qui soient les plus simples possibles. Un cube, une fonction, point barre. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Et après, on peut rajouter différents cubes. Et on a trouvé que cette simplification permettait, en tout cas avec des publics en situation de handicap, de pouvoir progresser dans certains domaines de création. Ça, c'est un vieil atelier qu'on fait depuis pas mal de temps. C'était toujours dans le pôle de ressources d'éducation artistique et culturelle. C'est un orchestre de joystick, c'est-à-dire comment utiliser cette déjà vieille manette de jeu qui est plus utilisée par les générations actuelles, mais en instrument de musique et en instrument de création sonore. Ça, c'est un atelier qui avait été monté par un collègue qui maintenant vogue de ses propres ailes, un atelier de kalimba numérique, c'est-à-dire l'idée c'est comment faire de la récup. Tout le matériel c'est du matériel de récup, donc c'est construire une kalimba, mais qui peut être intégrée et jouée au travers d'un ordinateur. Voilà, donc c'est l'idée un petit peu regard sur l'Afrique, ce qu'on appelle le do it yourself, le faites-le vous-même, de construire en une journée la kalimba et le petit programme numérique qui va avec. Ça, c'est ce qu'on appelle éducation artistique et culturelle. C'est un projet qu'on a fait avec un duo d'artistes, et l'idée, c'était de reprendre des vieux films scientifiques les plus ringards possibles, Donc on a trouvé plein de pépites comme ça des années 70-80 et les gamins refaisaient la bande-son de A à Z. Alors par bande-son, j'entends musique, bruitage, le bruit est extrêmement important dans cette théorie de les bruitages, ça ils adorent, et puis tout ce qui peut être voix, c'est-à-dire commentaires ou parfois faire parler les animaux et transformer un film scientifique en film d'animation. Ça c'est un truc qu'on adore aussi, c'est le film d'animation. Alors le film d'animation, il y a zéro 3D, c'est vraiment la matière première, vous la voyez, c'est les feuilles de papier, ciseaux, pâte à modeler, je pense que l'image d'après, voilà, des décors qui sont faits. C'est du travail image par image et en réalité ces ateliers, c'est ce qu'on appelle l'école de la patience et ça fonctionne très bien. Paradoxalement, dans une société de l'accélérationnisme, pour reprendre certains auteurs comme Helmut Rosa, ça montre que l'école de la patience, et ben, s'il y a un objectif partagé, ça fonctionne très très bien avec de la matière première. Là, on rejoint un petit peu ce qui a été dit ce matin, on est sur un cycle de géolocalisation et création sonore. C'est un atelier qu'on a fait il n'y a pas longtemps dans le cadre d'une biennale d'art contemporain qui a eu lieu à Poitiers. En gros, pour nous, l'idée, c'était que les jeunes d'un lycée, d'un collège de Poitiers, le collège Ronsard, puissent se réapproprier Traverser, donc le nom de cette biennale, et certaines œuvres d'art, et projeter leurs propres histoires à travers ces œuvres d'art. C'est-à-dire, l'objectif, c'est, au-delà de la maîtrise technique de la géolocalisation de création, c'est de pouvoir faire un travail en direction de leur imaginaire et de l'appropriation d'œuvres d'art. Je pense que dans un festival d'art contemporain, moi je préfère parler de festival d'art parce que contemporain ça met tout de suite la zizanie, ce qui est important c'est de jouer avec les imaginaires et l'appropriation de ces imaginaires. Et là avec les gamins, on a eu des CM1, des 6e et des 3e, on s'est rendu compte que ça pouvait fonctionner de façon assez incroyable. Voilà, là c'est toujours le même avec la création sonore. Ça, c'est un projet avec Véronique. J'ai mis au centre un outil technologique absolument fabuleux qui s'appelle le triporteur. Parce que pour présenter le travail de création qu'a fait Véronique, qui existe toujours, hein, que vous pourrez écouter si ça vous intéresse, on a utilisé le triporteur parce qu'il permettait de pouvoir suspendre, ici on ne le voit pas, mais le son, puisqu'on avait un petit haut-parleur Bluetooth, comme on dit, qui évite d'avoir des câbles. Et puis dedans, les gens sont venus, puis à un moment, on s'est arrêté, et dedans, on a le bar, c'est-à-dire on a partagé le pot de l'amitié à côté d'une splendide église de Poitiers, l'église Sainte-Radegonde, pour pouvoir faire ce parcours en géolocalisation, en marchant à pied à la vitesse du triporteur. Voilà un exemple d'hybridation culturelle. Ça, c'est le retour sur l'orchestre de joystick avec des classes. Bon, ça, c'est presque du classique. Là-dessus, on travaille avec le texte, c'est-à-dire les gamins viennent avec un texte, soit qu'ils ont écrit, soit qu'ils ont choisi, et on transforme le texte en création sonore, un peu visuelle, mais c'est surtout le sonore qui prime. Voilà, de plus près. Donc, apprendre à composer avec le jeu des joystickers, des speakers, comme on dit, qui racontent l'histoire. Et on a même des musiciens, puisque c'est une classe où il y a des jeunes qui sont dans des filières musicales. Et enfin, la fin, mais ça, j'empiète un peu sur Sylvie, sur la présentation de Sylvie. C'est l'atelier dont je parlais. Ça, c'est les Mamies Connectées. C'est un travail qu'on fait avec un groupe de dames. Projet qui existe maintenant depuis 7 ans. Là, c'était la présentation d'un jeu vidéo qu'elles ont créé. Tu veux peut-être revenir dessus un peu, oui. Et puis le dernier, c'est ce splendide outil technologique qu'on appelle la guitare électrique. Là, on avait fait un projet avec les Mamies Guitares, mené par ce musicien qui est un super bassiste, mais qui fait un travail de fond incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était... Donc aucune n'a joué de la guitare, mais ce qui était important, c'est qu'elles ont le matin, elles avaient atelier d'écriture et le soir, atelier guitare. Donc comme aucune n'a travaillé du Jimi Hendrix ou du Jimmy Page, elles ont travaillé sur des guitares accordées, ce qu'on appelle techniquement l'open tuning, et avec des accordages qui fonctionnent assez facilement pour que ça soit musicalement jouables en public, mais c'est surtout ce qui était splendide, c'est qu'elles ont écrit leurs textes et elles ont fait vraiment leur représentation des années 70. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en face, il y a 300 personnes et ce jour-là, pour un festival de musique expérimentale, elles ont mis le feu, quoi. Vraiment. C'était... Voilà, donc ça c'est un peu la palette. Alors est-ce qu'on est dans l'high tech ou pas dans l'high tech? Je ne sais pas. Voilà, c'est sur les objets sur lesquels on travaille. Rapidement, moi quand on m'a proposé l'intervention, je me suis dit mais de quoi l'high tech est le nom, est-elle le nom? Bon, ce matin ça a été évoqué un peu, hein. Moi j'y vois un label né un peu en même temps que la French Tech, donc bon voilà, peut-être une idéologie, peut-être des opportunités, peut-être plein de choses. J'avais retenu un texte, enfin une phrase d'un économiste, enfin d'un prof d'économie, Stéphane Diebold, qui en 2017 écrivait au sujet de la high tech, le monde est ouvert, reste à profiter de ses ouvertures. Bon, moi, par rapport à une phrase comme ça, je reste toujours sceptique, puisque, comme je vous disais, on a eu régulièrement ce genre d'injonction, et que derrière tout ça se pose effectivement la question de l'injonction ou du mythe, qui nous emmène directement à ce dont on parlait ce matin, au niveau des imaginaires, et peut-être très rapidement, au niveau de l'imaginaire, d'avoir ce corollaire entre, en anthropologie, certains l'ont abordé, la question, par exemple, de pouvoir travailler sur le bricolage, de pouvoir travailler sur le braconnage. Je pense que l'idée de braconnage est importante en numérique. Et je fais référence à des gens qui ont finalement été très, très en avance en écrivant l'invention au quotidien. Je pense à De Certeau. Et puis aussi, ça a été évoqué ce matin, sur le savoir sauvage, la connaissance sauvage, qui en anthropologie est quelque chose qui fonctionne. Alors on parlait de territoire, mais il y a des territoires où ça fonctionne de façon incroyable. J'ai eu la chance d'aller dans des Fab Labs en Afrique. En Afrique, on est sur une vision du numérique. Alors je ne sais pas eux comment ils pourraient appeler ce qu'ils développent, mais on est vraiment dans ce savoir et cet échange sauvage qui permet vraiment des choses absolument géniales. Pour la high tech, moi, c'était d'essayer de voir les facilités ou les obstacles. Alors, ce que j'ai vu à travers un certain nombre de présentations, c'est une sorte de circuit des achats, c'est-à-dire que, mais ça sous-tend derrière la question de l'appropriation, c'est-à-dire que quand on a ces belles propositions, et nous, on est dans le même cas de figure quand on fait un préac, on a des super propositions. Mais la vraie difficulté, une fois que tout le monde est content, que tout le monde a trouvé que l'outil est génial, c'est comment finalement on se l'approprie, soit économiquement ou tout simplement dans l'usage. Et que cette question de circuit des achats sous-tend derrière la problématique de circuit des usages. La problématique de l'expérimentation sans développement, qui est un problème, c'est-à-dire on a de beaux outils, mais comment après la diffusion s'organise? Ça, c'est un peu comme en culture, hein, le nerf de la guerre est quand même la diffusion. Un spectacle, s'il est merveilleux, mais qu'il est vu par personne, eh ben, il restera dans la caisse et c'est un problème. Ça a été évoqué aussi ce matin, l'absence de culture numérique. Alors, culture numérique, c'est la culture du numérique, parce qu'on est souvent victime de nos imprécisions. C'est est-ce qu'on parle de culture numérique ou de culture face au numérique ou avec le numérique ou pour le numérique? Ça, c'est des vraies questions, mais c'est quelque chose de redondant que nous, on rencontre dans les PREAC, dans les pôles de ressources éducation artistique et culturelle, c'est ça. Et enfin, la problématique des changements de pratiques imposés ou accompagnés, c'est-à-dire comment, quand on parle des enseignants, mais pas que les enseignants, hein, c'est tous les praticiens de terrain ou les praticiennes de terrain, comment on fait face à des injonctions et des changements de pratiques imposés. Je crois que c'est aussi quelque chose qui met réellement en difficulté ceux qui sont sur le terrain. Alors rapidement, je vous parlais tout à l'heure d'un cas de figure concret. J'ai voulu parler du handicap et création sonore qu'on mène ici depuis, ça fait 10 ans maintenant. On a commencé avec un festival local et une association, un festival Choucard qui était une présentation pendant une semaine d'un ensemble d'ateliers avec des personnes en situation de handicap. Un festival qui a duré pendant 10 ans et qui a été pour moi et l'équipe très riche d'enseignements sur la méthodologie à établir, avec des choses qui paraissent simples, mais c'est de pouvoir travailler avec la communauté des personnes qui travaillent autour du handicap. Par exemple les traducteurs ou les éducateurs ou le personnel éducatif dans les IME. Il y a aussi un festival qui est sous forme de biennale qui s'appelle Les Accessifs à Poitiers. C'est une particularité, mais ce festival a le mérite de, par exemple, mettre en place des réunions. Et lors de ces réunions, c'est vrai que c'est un endroit où on a pu rencontrer aussi les parents de personnes en situation de handicap. On pense souvent au handicap, mais on oublie aussi parfois l'environnement et les parents pour certains, c'est vraiment une problématique journalière extrêmement difficile à résoudre. Et c'est des endroits aussi de rencontres importants. Il y a le juridique, donc la loi de février 2005, qui parle entre autres, puisqu'il n'y a pas que ça, c'est un des volets, les questions d'accessibilité. Alors ici à Mendès, comme tous les établissements publics, on a été confrontés à cette interprétation de l'accessibilité. L'accessibilité étant d'un côté l'accessibilité physique, mais également l'accessibilité aux usages. Et on se rend compte que si l'accessibilité physique est compliquée à résoudre, l'accessibilité aux usages implique aussi de réfléchir à cette notion de médiation, ne serait-ce que pour l'accueil. Et voilà. Alors, parenthèse, nous à Poitiers, par exemple, on a la chance de s'appuyer sur un tissu associatif dense. Et par exemple, sur la problématique de l'autisme, une association comme l'ALEPA nous a proposé, parce qu'ils ont eu des financements européens là-dessus, de faire une formation sur l'autisme, c'est-à-dire de comprendre ce qu'était l'autisme. C'est des formations de 3 heures. Donc on peut faire 4 cycles de 3 heures pour essayer de comprendre et d'arrêter de fantasmer sur l'autisme ou de limiter l'autisme à l'autisme Asperger, qui est une vision finalement assez limitative de ce qu'est réellement l'autisme. Ça, c'est un travail intéressant de co-construction d'un projet, donc qui contribue au réseau et accompagnement. Et enfin, dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir une convention qui est importante, puisqu'elle relie l'ARS, l'Agence de la Santé, avec la région Nouvelle-Aquitaine et le ministère de la Culture par le biais de la DRAC. C'est important de préciser, parce que je crois que c'est la seule région actuellement qui a ce type de dispositif. Donc là, je vais vous présenter une expérience de terrain. C'est un travail qu'on a fait avec deux artistes. En réalité, un binôme où il y a un artiste, celui de gauche, et celui de droite qui, lui, vient plutôt du monde, a été éducateur et a travaillé pendant 15 ans dans des centres handicap. Autour du petit boîtier que je vous ai présenté tout à l'heure, du petit cube, on les a fait venir pendant plusieurs semaines sur Poitiers, et là, je vous présente un extrait d'un atelier.
Nous, on a une association qui s'appelle Brut Pop. Brut Pop, c'est un petit jeu de mots avec l'art brut et pop art et la Brit Pop et tout ça. Et l'idée, c'est que nous, on fait des ateliers de musique électronique expérimentale avec public handicapé mentaux, handicapé physique, des autistes en psychiatrie. Et ce qui nous amène à Poitiers, c'est que depuis 2 ans, on développe des instruments pour faire cette musique. Et des instruments comme c'est la Brut Box. Et comme ce qu'on peut voir derrière, peut-être, des guitares électriques simplifiées.
Conçoit nos ateliers comme des moments un peu de lâchage, des parenthèses dans lesquelles, ok, on...
Et comme le font les musiciens expérimentaux, les rockers le samedi soir, quoi, ni plus ni moins, quoi. Le point de départ, c'est qu'on est vraiment convaincu de la créativité de ces publics. Donc on est vraiment convaincu qu'il y a quelque chose de hyper intéressant artistiquement à en sortir. Et qu'en fait, il faut juste les bons outils. Donc on essaie juste de faire des outils qui favorisent l'intuitivité, où on n'est pas dans une situation d'échec parce que l'instrument est pas compliqué.
La mauvaise réputation, c'est une association qui a pour vocation de faire de l'insertion par la culture avec des publics soit en insertion, soit en situation de handicap, en utilisant la culture comme vecteur de rencontre. C'est parti dans un premier temps donc, avec le lieu multiple, en fait, d'une volonté en fait, de créer du réseau. Et on a eu la chance de rencontrer l'équipe de Brut Pop lors de quelques jours à Paris à la Gaîté Lyrique. Et en fait, ce qu'ils proposent nous a beaucoup plu et il s'avère que le multiple les invités. Et dans ce cadre-là, donc la mauvaise réputation a été invitée à encourager des structures à découvrir ce dispositif.
Un truc tout simple, des fois, c'est de se dire sur un instrument de musique électronique, on se retrouve avec 50 boutons, c'est plein d'informations. Et que, alors qu'en fait, quand on veut faire un rythme, il peut suffire que de 2 boutons. Donc nous, ce qui nous semble pertinent en fait, en tant que justement intermédiaire entre les handicapés et le numérique, c'est de dire, on va faire une boîte avec juste un bouton.
Profondément, on s'en fout de faire un truc qui est techniquement impressionnant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est répondre à notre cahier des charges d'atelier, que le gars qui se le prend en main de notre instrument s'éclate vraiment, qu'on ait un résultat artistique qui soit satisfaisant.
Souvent, quand les gens voient qu'on fait de la musique avec le mouvement, on dit « Ah, mais c'est comme Jean-Michel Jarre ». Et ouais, mais le truc, c'est que 30 ans plus tard, il n'y a pas un instrument grand public qui fait ce genre de truc à bas coût. Et donc, nous, notre but, c'est aussi d'aller voir qu'est-ce qui se fait dans les milieux du numérique, dans les milieux de l'innovation, et d'essayer de faire juste un travail de synthèse et de rendre les choses lisibles.
Enfin, il y a déjà une base de ce dispositif qui permet énormément de choses, qui a beaucoup de comment dire d'accessibilité différente au handicap, c'est-à-dire déjà il s'adapte énormément à chaque personne, il est extrêmement accessible, il est évolutif. En plus, les personnes qui s'occupent de ces dispositifs sont comment dire, toujours dans la recherche. Donc, il y a un question-réponse qui peut se faire véritablement entre le handicap et ce dispositif. Et il est avant tout super musical.
Notre ambition, on espère assez court terme, c'est de passer du prototype à une version 1. Et c'est d'avoir une dizaine d'institutions testeurs et d'avoir fait un travail de simplification du logiciel, d'avoir corrigé quelques petits trucs qu'on a observés et pour qu'on commence à diffuser un peu cet outil qui sorte un peu de nos mains, quoi. Et après, l'objectif un peu second, c'est que cet outil devienne potentiellement un vrai outil qui pénètre un peu le monde du médico-social pour devenir un outil pas cher.
Et puis pour une fois, ce qui me paraît vraiment très important, c'est un, le public est acteur et pas spectateur aussi de tout ce qui est proposé. Et on ne travaille pas avec les limites, on bosse avec les moyens en fait des personnes. Et ça, je pense que c'est, enfin, je trouve que c'est extrêmement important. Parce que souvent, on se dit, voilà, la mobilité, elle est moindre, il ne bouge que la tête, il ne bouge que la main. Et là, pour le coup, ça devient le point fort. Et on développe autour de ces moyens-là et on ne travaille pas sur la limite. Et ça, ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment important.
Rapidement, pour dire, ce projet se fait en interdisciplinarité avec un ensemble de partenaires avec lesquels on est en contact et qu'on continue depuis 2016 à utiliser ces cubes. Là, on a un atelier avec des enfants autistes de 8 à 16 ans et on a aussi un atelier avec des enfants dysphasiques dans un hôpital de jour sur des projets à long terme, enfin sur un an, avec une dizaine d'ateliers et une présentation publique à la fin. Voilà, donc ça veut dire que quand je parlais de temporalité, c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps et qui ont besoin de temps pour pouvoir être projetées. Je vais finir sur un dernier point pour laisser la parole. Quoi. Sur ces ateliers, donc la confection d'instruments, l'expérimentation de musique, bon, noise, c'est ce qu'explique, parce que c'est un volet qu'on aime bien, c'est musique brute en référence à l'art brut, hein, monsieur Dubuffet qui nous a quand même pas mal inspiré dans ses démarches, c'est développer de façon sensible la pratique de la musique expérimentale, qui peut travailler aussi avec des radios. Ces projets-là, ça peut se faire avec des radios. À Paris, ils l'ont fait avec un groupe de jeunes autistes, les Harris, qui est un groupe qui existe maintenant depuis 10 ans, où ils ont une émission de radio dédiée à des jeunes autistes et avec des choses vraiment surprenantes en termes de contenu. Et c'est aussi la capacité d'adaptation de ces outils avec tout ce travail de réitération et de récursivité des usages, puisque vous l'avez bien compris, chaque cas étant un cas, on peut adapter avec... Alors ça, c'est le côté aussi de plasticité du numérique, et en l'occurrence de plus en plus du logiciel libre, on en parlait ce matin, qui permet de travailler avec quelques compétences, mais on a la chance à Poitiers d'avoir un tissu assez important d'utilisateurs de logiciels libres qui sont prêts à s'impliquer dans ces projets avec des communautés en ligne et à distance. Et dernier point, je voulais parler du dispositif PREAC, parce que j'en ai parlé, Pôle ressources d'éducation artistique et culturelle, dont l'objet est la formation de formateurs à destination des publics à la fois de l'éducation et de la culture. Je ne vous cache pas que c'est majoritairement encore l'éducation. Hein, les gens de la culture ont encore un peu de mal à venir. Enfin, il y a encore un frottement entre culture et numérique, mais ça progresse. Et deuxième point, la production de ressources transférables nationalement pour développer des projets d'éducation artistique et culturelle. Bon, ces PREAC sont actuellement en pleine dynamique. Hein, il y en a 38 en France. J'ai mis les catégories parce que c'est assez important. Il y a les arts du goût, les arts plastiques et les arts numériques et le design qui ont été regroupés. L'architecture et le paysage qui sont des PREAC extrêmement intéressants quand on veut parler de territoire. Cinéma audiovisuel, culture scientifique et technique, danse, musique, patrimoine historique et naturel, et on en parlait ce matin, théâtre, littérature et création littéraire, qui permet d'échanger entre les PREAC. Et nous, on est très contents d'envisager des collaborations avec l'architecture et le paysage, et en particulier le paysage avec un PREAC qui est situé à Limoges. Et puis, régulièrement, on travaille sur les domaines de théâtre et littérature avec ces questions du numérique et avec des outils du type que je viens de vous proposer. Et enfin, donc, les PREAC sont régis par une circulaire pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle. Préciser qu'en France, l'acronyme EAC, éducation artistique et culturelle, est en train de devenir une labellisation 100% EAC, on pourrait en parler plus longuement, mais qui montre l'intérêt que porte encore le ministère de la Culture à ces questions d'éducation artistique et culturelle, donc le travail avec les artistes, le travail dans le champ culturel en lien avec l'éducation. Et donc, ils sont coordonnés nationalement par les ministères de la Culture et de l'Éducation, ainsi que le réseau Canopé, au moins jusqu'à fin 2020. Et d'un point de vue territorial, le rectorat, la DRAC, les réseaux Canopé, l'ESPE, enfin avec son nouveau nom, hein, là, et des structures culturelles pilotent ensemble la mise en œuvre de ces préacs. Celui de Poitiers qu'on a créé s'appelle Art, Culture et Numérique. On a préservé notre façon d'aborder les choses. On voulait absolument qu'il y ait de l'art, de la culture et du numérique, et reste complètement ouvert au schéma et aux questionnements actuels d'ingénierie culturelle et puis d'ingénierie économique pour mener à bien ces projets. Voilà, j'arrête là et je vous remercie de votre attention. Ah si, il y a 9 préac en Nouvelle-Aquitaine, j'ai oublié de les citer, avec des présentations de projets hybrides. C'est ce qui constitue un préac, de la création numérique, de la création sonore, présentation de festivals ou d'expériences de rencontres, des ateliers. L'année dernière, on a fait un World Café qui s'appelle « Comment monter des projets liés en création sonore, artistique et numérique ». Et enfin, parce que ça nous paraît essentiel, la présentation de projets artistiques, puisque dans ces dispositifs, les artistes sont toujours présents en échange avec les publics. Merci beaucoup.
Merci Patrick. Sylvie, peut-être, dira un mot, et un mot avec un M majuscule de Rurart, et puis peut-être expliciter à travers le projet Rurart, qui me paraît assez exemplaire, avec ce qu'il y a de bien et les interrogations, parce que je pense qu'on est aussi là pour se poser des interrogations sur la transformation depuis quelques années de tous ces projets et leur mutation à l'ère ou à l'heure du numérique. Donc ce serait peut-être pas mal aussi de lier avec ce que Patrick vient de dire là.
Alors effectivement, je pense que beaucoup de personnes ici connaissent Rurart. C'est un centre d'art qui est situé à 35 km de Poitiers. Donc si vous allez à Lusignan, c'est encore après. Et c'est le seul centre qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Seul centre en France pour l'instant. Voilà. Pour dire, moi je suis à Rurart depuis un peu plus d'un an. Au niveau, alors on développe, il y a des expositions à peu près 2 fois par an. Il y a aussi des ateliers numériques. Donc on a développé aussi avec notre partenaire de lieux multiples. Pour expliquer la situation, depuis un an, en fait, avant il y avait 3 animateurs qui travaillaient beaucoup sur le territoire au niveau numérique. C'était des animateurs culturels avec, on va dire, la nouvelle région. Et pour d'autres raisons, ils sont partis. Donc voilà, j'ai repris le centre, en fait, un peu toute seule. Et on est en reconstruction, on va dire. Donc là, il y a une secrétaire, il y a un médiateur qui vient d'arriver. Il y avait 5 personnes. Donc pour l'instant, depuis septembre, nous sommes 2,5. D'où la difficulté. Et effectivement, grâce à des projets en coproduction, notamment avec le lieu multiple, on peut continuer encore à avoir... on va dire, des ateliers et de la médiation et des expositions. En plus, on coordonne le réseau, on va dire, ESC, ce sont les enseignants socioculturels. On peut dire que c'est comme des enseignants arts plastiques, mais ils développent des projets artistiques supplémentaires. Donc voilà, Rurart est aussi le coordinateur de ce réseau ESC de l'ex-Poitou-Charentes. Donc cette année, on a développé un projet anticipation, donc avec sur toute l'année, et avec fin mai une représentation finale, voilà. Et à peu près sur Ex-Poitou-Charentes là 13-14 lycées agricoles, voilà. Mais donc on a aussi des workshops pendant les vacances scolaires qui peuvent être autour on va dire plus autour de l'art, ou alors numérique. On est sur des robots musiciens, donc avec aussi des animateurs ou artistes qui viennent spécifiquement présenter un projet. On a des mercredis numériques, voilà, qu'on développe là sur le territoire. Donc on a plutôt des collégiens de Lusignan, on va dire, ça va être notre public principal, plus adultes, voilà. Et là j'ai résumé à peu près la situation. Donc pour l'instant, effectivement, au départ, la direction, c'était une personne titulaire, qui c'était un enseignant ESC. Là, ce n'est plus le cas, parce que ce sont des personnes extérieures. Moi, j'étais présidente, je m'occupais d'une résidence d'artistes. Donc, pour l'instant, c'est que des personnes contractuelles. Et ça reste encore un lieu un petit peu fragile, parce que nous dépendons beaucoup des subventions. Donc, on a des partenaires encore. Donc, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. On a la DRAC, on a bien sûr la DRAF, donc ministère de l'Agriculture, on a le département, on a depuis peu la ville de Rouillé qui participe pour dire que voilà, ce lieu est important. Et heureusement qu'on a des partenaires avec qui on travaille beaucoup et qui voilà.
Alors pour alimenter la réflexion, ton expérience, même si elle est récente, est-ce que le fait de lier culture et numérique dans un lieu d'enseignement agricole, c'est cumuler des handicaps ou est-ce que c'est ouvrir des portes ou des opportunités? Est-ce que c'est...
Déjà, on va dire que l'agriculture, c'est vrai qu'elle utilise de plus en plus de technologies. Et la dernière exposition, j'ai essayé de la rendre, on va dire, plus attractive. On a parlé de paysage avec des casques de réalité virtuelle. Et c'est une approche où là, moi, je suis arrivée. La situation était en cours, mais il y avait à peu près une ou deux classes. Là, tous les lycéens du lycée sont venus voir l'exposition. Donc la prochaine exposition, effectivement, utilisera moins d'outils technologiques, mais non, c'est pas un handicap du tout. Justement, ils sont attirés par ces outils.
Ok. Véronique, peut-être compléter avec tes parcours musicaux, artistiques.
Oui, entre autres. C'est vrai que Patrick a déjà fait un bon tour des endroits où on peut se retrouver en tant qu'artiste. Il y a quelque chose que j'avais envie de, parce que depuis ce matin on parle du numérique. Pour moi, j'ai été étiquetée entre guillemets artiste numérique. Quand j'étais encore au Québec, j'étais plutôt artiste en art médiatique. Donc ici, on m'a mis l'étiquette numérique. Voilà, pour moi, c'est un outil parmi d'autres. Mais quand je me retrouve dans des situations, parce que c'est vrai que on demande beaucoup aux artistes de faire ce qu'on appelle des résidences missions. Les artistes, c'est pratique, ça coûte pas très cher et puis apparemment ils peuvent sauver le monde. Donc c'est assez étonnant comme voilà. On se retrouve dans des parcours où on gère avant tout de l'humain en fait, plus que du numérique. Moi, quand j'ai reçu l'invitation pour venir parler, j'étais très heureuse parce que c'est vrai que j'ai fait énormément donc de ces résidences missions, mais jamais personne ne m'a demandé comment ça s'est passé, alors que j'ai pu faire des résidences quand même dans des hôpitaux, où j'habitais à l'hôpital pendant 3 mois, avec des publics, certes, avec des outils numériques, mais avec aussi un public qui était des patients, qui mouraient en cours de route. On a fait le vernissage avec les gens, avec leurs petites patates comme ça, avec leur soluté, et puis la jaquette ouverte. Enfin, des choses avec des... Mais c'est hyper... je trouve qu'on parle pas assez des publics à qui sont destinées ces actions. J'ai travaillé dans des centres de détention, dans des EHPAD, dans des écoles. Je suis arrivée à Poitiers il y a 2 ans, justement sur un projet comme ça d'éducation culturelle artistique, où pendant 6 mois, j'habitais au lycée Camille Guérin avec les élèves. Et je travaillais avec des jeunes enfants de la maison de la Gibauderie et aussi avec des gens qui étaient à l'EHPAD, des personnes âgées. Donc j'avais un public cible de 3 à 103 ans. Et franchement, moi, j'ai pas du tout été formée pour ça. Donc après, voilà, les projets doivent évoluer en fonction des publics aussi. J'ai fait énormément. Par exemple, pour prendre l'exemple de Poitiers ici, j'ai fait 4 projets qui liaient un petit peu les différents publics cibles, notamment un livre qui avait rien à voir avec l'outil numérique, mais quand même qui était imprimé en sérigraphie à partir d'histoires racontées par les personnes âgées dans le désir de quand même de garder une trace, une archive de leurs témoignages, qui était illustré par les enfants de 3 à 8 ans, et puis après imprimé, relié par les lycéens. Donc c'est un espèce de projet intergénérationnel comme ça, dans le but de créer du lien. Et dans ce but de créer du lien, là, sur l'aspect numérique, en fait, dans ma pratique artistique, oui, j'utilise le numérique, j'utilise des ordinateurs, j'utilise des technologies, quelles qu'elles soient, même de l'électronique, mais je détourne ces technologies pour en faire quelque chose de sensible, pour aller vers la poésie, pour aller vers quelque chose de... pour essayer de toucher les gens ailleurs que dans la technique. Et du coup, l'idée, c'était de reproduire ça à échelle, voilà, avec les budgets qu'on a pour travailler, avec les publics qui ne sont pas toujours conséquents. Et moi, je m'étais dit, bon, je vais me faire mon petit plaisir. C'est vrai que je travaille avec tous ces groupes-là. Ça demande quand même beaucoup d'investissement pour coordonner, ne serait-ce que tous les groupes, de la manière dont on travaille tous ensemble. Et je vais me faire toute seule une petite installation, là, voilà, pour marquer un peu le coup sur le lien qui a pu s'établir, notamment entre le lycée et l'EHPAD. Et donc, je pensais travailler toute seule. Et puis, finalement, je me suis retrouvée avec une bande de lycéens. Qui étaient justement eux très intéressés par rapport à la question du numérique. On s'est rencontrés parce que comme j'habitais, eux habitaient à l'internat, moi j'habitais dans le lycée, on avait le même problème, c'est qu'on n'arrivait pas à se connecter sur YouTube, sur voilà, des sites Netflix ou les autres, parce que l'accès à Internet était restreint. Hein, parce qu'à l'école, voilà, il y a Internet, mais on ne peut pas aller voir partout. Et donc, c'est eux qui m'ont appris enfin, comment détourner tout ça, les VPN, etc. C'est trop bien. Et donc, on a profité de ça, de comment bien, on vient détourner les règles pour... voilà. Et eux se sont avérés super intéressés à ce que, voilà, la technologie que j'utilisais dans mes œuvres. Donc, j'ai dit, bah, si vous voulez, on fait un petit groupe de gens intéressés et on travaille ensemble à l'élaboration d'une œuvre dite numérique qui sera pérenne et qui restera, donc qui est toujours là, d'ailleurs, à l'EHPAD Agapanthe et au lycée Camille Guérin. On a travaillé ensemble un dispositif tout simple. C'est qu'on était tous d'accord sur le fait que l'EHPAD, c'est un lieu quand même chargé. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super difficile sur place parce que c'est énormément de personnes qui sont quand même, enfin, qui pourraient normalement avoir accès à la culture, à l'art d'une manière digne, etc. Et qui sont pour la plupart seules, qui sont dans l'attente de visite de gens qui ne viennent pas. Et moi, j'ai tout de suite senti quand je suis arrivée, c'était la nouvelle tête, mais c'est qui, quoi ? Et je sentais énormément d'espoir chez eux de pouvoir me parler. Et c'est comme ça aussi que les projets, dont le livre dont je parlais ou d'autres, c'est pas du tout ce que j'avais prévu faire quand j'étais chez moi, me dire bon, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens-là ? Voilà, je suis vraiment partie ailleurs parce que ces gens étaient en demande de quelque chose, d'une présence. Et en discutant avec les élèves de cette question, j'ai dit oui, il faut faire une œuvre qui puisse relier de façon anonyme les deux structures. Et on a travaillé ensemble à l'élaboration, donc un dispositif tout simple. Donc c'est deux lampes connectées. Et quand quelqu'un, par exemple, au lycée, se place devant la lampe et reste immobile, il y a un système de détection de présence tout simple qui envoie un message à la lampe à l'EHPAD et la lampe s'allume en disant voilà, comme un petit coucou, quoi, une manière de dire je pense à toi. Et même chose à l'EHPAD, voilà. Donc il y a tout une communication qui a perduré dans le temps comme ça. Il y avait des élèves qui voulaient apprendre le code Morse pour essayer d'envoyer des messages. Enfin voilà, ça a permis de créer du lien, de mettre en place vraiment. Et je pense que numérique, pas numérique, peu importe, c'est vraiment ce qui est important, en tout cas dans la question de ces parcours éducation, qu'ils soient culturels, artistiques ou autres, c'est de se dire que bah, c'est des humains qu'on a en face et qu'il faut... Voilà, c'est avec eux qu'on doit composer d'abord. Et pas leur imposer une vision des choses, mais beaucoup plus aller avec leur vécu et puis à partir de là, je pense que c'est nos missions aussi en tant qu'artistes, d'être à l'écoute de ça et puis de proposer, de faire des propositions qui puissent voilà, leur faire du bien.
Moi, je vais lâchement profiter du fait que tu sois né ailleurs qu'en France. Dis-moi, est-ce que, de ton point de vue, car tu connais bien les deux communautés, les préoccupations qu'ont les Français d'une intégration du numérique, d'une culture ou pas numérique, des rapports culture-éducation, est-ce que c'est quelque chose qui est exotique et typiquement français ? Ou est-ce que ce sont des préoccupations que les Nord-Américains, même s'ils parlent français, ils sont Nord-Américains, ont ? Ou alors est-ce qu'ils sont dans le pragmatisme total et on prend comme ça vient et on fait tel que c'est ?
Bon, je n'y habite plus depuis 10 ans, donc je ne suis pas tout à fait au fait de tout ça. Je peux répondre juste de mon expérience, hein, mais je pense que les mêmes préoccupations sont là, avec des budgets différents, effectivement, hein, comme mentionnait Patrick, voilà, quand il disait à l'échelle de la ville, voilà, les budgets qui sont investis, bon, c'est pas du tout les mêmes, on n'a pas du tout la même population. Mais il y a en tout cas, oui, la question se pose. Après... je ne sais pas si c'est aussi... dans les manières de faire, je pense qu'elles sont assez différentes. L'accès au téléphone portable, etc. Toutes ces choses qu'on essaie un peu de restreindre par moment ici. J'ai l'impression que les questions ne se posent pas encore. Ça va arriver. J'ai l'impression qu'on est un peu dans quelque chose qui va émerger, mais qui n'est pas encore tout à fait au même niveau de questionnement qu'ici. Mais oui, on est tout à fait dans ces questions de numérique.
D'accord. Alors, Est-ce qu'il y aurait des questions ou des interrogations pour nos intervenants?
Non, c'est juste que Patrick l'a évoqué, mais moi j'aimerais bien, Sylvie, si tu pouvais parler un petit peu de ce que vous faites avec les mamies connectées. Parce que là, on a, en termes de... Justement, je pense que ça va répondre à aussi ce que tu dis, Véronique, sur la part sensible, en fait, de cette question-là, parce que c'est tout l'enjeu de ces actions.
Oui, depuis 2012, en fait. Oui. C'est ça. J'anime un atelier à la clique des mamies connectées. C'est autour du, on va dire, l'outil numérique pour les plus de 70 ans. Voilà. Donc effectivement, on parlait de fracture numérique, c'était des personnes qui étaient isolées aussi, parce qu'elles n'utilisaient pas l'outil numérique, même elles n'avaient pas d'adresse mail. Moi, mes premières interventions, c'était vous allez avoir une adresse mail, recevoir des messages. Et petit à petit, c'était pas un cours, on va dire, il faut avoir un petit peu d'humour aussi, parce que quand vous avez vu le jeu vidéo, on a fait un atelier. Donc au départ, elle ne connaissait pas Internet, la plupart, et à la fin, si vous voyez, elle faisait des ateliers Scratch, Maki-Maki, elle faisait des ateliers sonores. D'où l'atelier Scratch, on faisait une petite animation, d'où l'idée de faire un véritable jeu vidéo. Donc ça s'appelait la crème rajeunissante. Donc c'est pour ça qu'après, il y avait un lien, elles ont recherché des photos du passé et voilà, il y avait un morphing jusqu'à la fin pour l'avoir en tant que bébé, ça c'était le but du jeu. On fait beaucoup de choses, on va dire, ludiques, et c'est vrai qu'il y a toujours un lien, même le Skype, pour certaines, ça a été un lien avec les petits-enfants qui étaient éloignés. Voilà, c'est un atelier qui se passe... C'est un vendredi sur deux qui dure 2 heures, des fois 3, parce que ça se termine autour d'un tea time. Voilà. La tasse de thé, le café, on parle déjà des soucis technologiques. Moi, j'ai voulu leur peur aussi, parce que pour acheter sur Internet, c'est. Donc, on développe des ateliers de curiosité aussi, parce qu'on va voir, on rencontre des artistes numériques. Véronique, ils connaissent leur travail, et c'est une petite clique qui...
Vous parlez du projet actuel, peut-être ?
Oui, le projet actuel, depuis un an, là, on a le projet de faire, alors je ne sais pas si je le dis...
Faut pas spoiler.
C'est fake news. C'est pour ça que je ne vais pas le dire.
Avons
faire des fake news. Voilà, avec... c'est assez drôle, c'est très drôle. Bon, c'est une création d'entreprise, voilà. Je dirais peut-être pas plus loin,
non,
en plus.
Hein,
ça suffit. Donc vous verrez petit à petit, mais bon, voilà, il y a tout le côté marketing, comme on fait de la publicité, on s'intéresse, papier, vidéo, pour l'instant on s'en documente, on a commencé à tourner, à écrire, et la fin de l'année, vous allez avoir la fin du projet.
Et juste préciser, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'impulsion de départ, c'était une artiste qui s'appelle Albertine Meunier, qui est donc à la fois une artiste et qui était à l'Orange Lab, je ne sais pas si ça existe encore, et travaillait avec une personne qui est peut-être plus connue, c'est Dominique Cardon, c'était une collègue de Dominique Cardon, et qui donc a fait un travail qui moi m'avait complètement... estomaqué, enfin dans le sens, j'avais trouvé ça génial. C'était un abécédaire du numérique, mais où toutes les définitions étaient données par ces dames. C'était un groupe sur Paris d'une quinzaine de dames de plus de 70 ans, et c'était vraiment leur définition. Alors c'est dommage, j'ai pas préparé, mais il y a des définitions qui sont tellement merveilleuses. Quand la définition des mamies sur un disque dur ou sur Internet ou sur le Wi-Fi. C'était de la poésie à l'état brut, quoi. Et ça donne aussi quelque chose d'intéressant sur la représentation de choses qui nous paraissent évidentes, mais la représentation que peuvent avoir ces dames de choses qui pour nous sont évidentes, et elles, ce qu'elles projettent parfois, c'est tout simplement de la poésie à l'état pur, quoi. Et donc à partir de là, on a fait un petit peu une formation, on a été voir Albertine, et c'est comme ça que le projet est venu sur Poitiers et se pérennise. Et donc bien préciser que c'est un atelier, nous c'était un petit peu notre idée au départ, c'était pas de transformer nos mamies en secrétaires médicales et de faire de l'Excel, c'était justement de faire des bêtises artistiques et culturelles pour pouvoir avant tout avoir le sourire. Un des meilleurs souvenirs pour moi, c'est quand même la visite d'un directeur d'EHPAD qui est venu ici à l'atelier de façon très bienveillante, mais qui nous a dit à l'époque, mais je ne sais pas ce que vous faites, mais depuis que, je ne sais plus comment elle s'appelait là, Thérèse, ouais, qui avait 95 ans à l'époque, qui a été missionnaire pendant 30 ans en Amérique du Sud, Thérèse avait foutu la révolution dans l'EHPAD parce qu'il fallait des ordinateurs, du Wi-Fi, et voilà. On a trouvé ça merveilleux qu'à 94 ans, Thérèse mette le feu à son EHPAD dans le sens numérique du terme, et c'était exactement ce qu'on attend des participantes.
J'aimerais savoir quel est le rapport entre vous et les artistes traditionnels? Les artistes? Les gens, les peintres, les acteurs, qu'est-ce qu'ils disent du travail? Personnellement, je n'ai pas de doute. On va en direction de la numérique partout. Les photos, par exemple, elles sont aujourd'hui faites numériquement. Ça n'existe plus, les films d'auparavant. Mais est-ce que vous avez des rapports avec sculpteurs, peintres et tout ça, poètes?
On a, j'ai l'impression que le numérique, ça redonne la définition de support. Le numérique retraduit. Moi, j'aime beaucoup un livre de la dame s'appelle Demérodieu, j'ai oublié son prénom, qui a fait une histoire de l'art où finalement le numérique n'est qu'un avatar supplémentaire de la matière. Sur laquelle on... Donc, enfin, moi, j'ai un peu de mal avec artiste traditionnel. Je pense que c'est artiste tout court, mais qui peut utiliser une matière différente. Par exemple, on a des sculpteurs traditionnels qui peuvent utiliser une imprimante 3D. Ils vont rapporter, je pense, un petit peu d'art dans la façon d'utiliser une imprimante 3D. C'est-à-dire, peut-être y projeter une matière différente. C'est en tout cas le projet artistique qui nous intéresse. Pareil avec le théâtre. Le théâtre, on a eu, il y a quelques années, beaucoup de metteurs en scène qui venaient nous voir et qui voulaient absolument du numérique dans le spectacle. Et souvent, notre rôle, ça a été peut-être de les dégoûter du numérique, mais sur un parcours, en disant, qu'est-ce que vous apporte le numérique? Mais qu'est-ce que vous enlève le numérique? Et c'est-à-dire qu'à un moment, un metteur en scène de théâtre, ça peut être bien qu'il réfléchisse sur l'utilisation du numérique, mais ça peut être intéressant qu'il enlève l'échafaudage du numérique pour que l'œuvre apparaisse réellement. Donc pour moi, c'est une question artistique et de rapport à l'artiste qui prévaut dans...
C'est un outil. Le numérique, c'est un outil, c'est un instrument.
Oui, oui. Oui.
Effectivement, c'est un peu ça. Moi, en tant qu'artiste, ce que je disais tout à l'heure, le numérique, c'est un outil, mais comme l'est la peinture ou comme le son, c'est voilà, un matériau parmi d'autres qu'on peut utiliser à certaines fins qui n'est pas obligatoire non plus. Voilà, c'est juste que ça, effectivement, ça ouvre des portes, ça permet des choses que, voilà, ça facilite des manières de faire aussi, effectivement, avec la question de l'imprimante 3D, tout ça. Voilà, il y a des, ça peut être un outil facilitateur, mais c'est pas une fin en soi. C'est, pour moi, c'est juste un outil en plus qui s'est ajouté dans ceux qui sont disponibles pour les plasticiens. Parce que même les peintres vont utiliser des vidéoprojecteurs pour projeter leur image sur la toile. Enfin, voilà, et ça depuis très longtemps. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est là et qu'on apprend à utiliser, qu'on peut utiliser ou pas. Mais
d'ailleurs, toi, dans tes œuvres, la plupart du temps, c'est très présent, le numérique, mais on ne le voit pas. Donc, tu travailles justement sur cette question de l'invisibilité.
Oui, souvent je crée des dispositifs un peu gros pour montrer des choses qui n'existent pas, mais je détourne voilà, certains outils pour arriver à ça, mais effectivement j'aime pas trop qu'on voit, parce que l'intérêt n'est pas là, de voir l'ordinateur qui calcule, ou de voir, c'est pas ça qui compte. L'idée c'est vraiment d'être dans l'expérience du spectateur et de faire en sorte que ces choses-là soient très discrètes. Et il y a des choses toutes bêtes qui fonctionnent bien, par exemple d'avoir un tapis technique sous une œuvre et tout à coup les gens ne voient plus les câbles qui passent entre voilà, un ordinateur et puis là par exemple avec un piano mécanique, il joue tout seul parce qu'il y a un ordinateur qui est connecté dessus, il y a un fil qui relie l'ordinateur et le piano, mais les gens ne voient pas le fil et du coup ils trouvent ça vraiment magique. Voilà, c'est des choses toutes bêtes comme ça, il faut essayer d'épurer le plus possible pour rester voilà, sur la ligne artistique.
Et montrer que dans l'histoire de l'art, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Parce que Nam June Paik, quand il a fait avec Charlotte Mohman le Cello TV, c'est utiliser un violoncelle, instrument qui existe toujours et qui est bien vivant avec de nouveaux interprètes, compositeurs. À l'époque, c'était de transformer un violoncelle en télé, mais ça restait quand même un violoncelle sur lequel Charlotte Mohman jouait. Au même titre, c'est peut-être un peu moins connu, mais des gens comme Rauschenberg, qui étaient des peintres... entre guillemets, traditionnels, ont fait des expériences à New York dans les années 60, hein, donc plus de 50 ans maintenant, où le croisement avec l'électronique et, à l'époque, on appelait ça la cybernétique, l'ancêtre du numérique, des expériences pendant une semaine où étaient convoqués des spécialistes qui ont bossé après dans la NASA, et puis des artistes comme Rauschenberg, John Cage, qui, à l'époque, s'emparaient de cette matière pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de sensible et de poétique avec ces objets.
On va vous remercier de votre contribution. Alors, je vais demander à notre ami Jean-Michel Perron de venir avec moi. Ça va tomber, c'est pas grave. Alors par rapport à notre programme de la journée, il paraissait indispensable et ce matin notre compagnon de route Jean-François Cerisier et puis son collègue Éric Lambert se sont prêtés au jeu de refaire une petite histoire. De ces récentes années. C'est pour ça que je posais la question à Véronique tout à l'heure sur l'environnement culturel en nord-américain. Bon, je veux dire, le Québec, voilà, c'est des Français d'Amérique du Nord. sur cette préoccupation, parce que à tort ou à raison, mais bien souvent c'est reconnu un peu plus tard comme étant à raison, les Français ont l'habitude de triturer et de critiquer, de malaxer les sujets sur lesquels ils sont, quitte à mieux retomber sur leurs pattes. Et après, ça, c'est, je vois bien, depuis une quinzaine d'années que j'ai régulièrement en Amérique du Sud, je vois bien qu'on est réputé pour être capable d'aller loin dans la critique de ce que nous faisons, mais de faire quand même. Et finalement, on nous reconnaît une aptitude à critiquer et à faire. Avec un manque parfois de pragmatisme dans un premier temps, mais c'est peut-être pour mieux se relancer. En Amérique du Nord, je travaille en Louisiane depuis une éternité, je vois bien qu'on est dans le pragmatisme total et que la réflexion se fait au moment des grandes catastrophes. Je parle d'environnement et je parle de Katrina ou des choses comme ça. Et puis après, bah, tout revient comme avant, quoi. Donc, on a une petite spécificité française que j'ai envie d'approfondir, alors pas forcément avec toi Jean-Michel aujourd'hui, mais dans cette maison depuis assez longtemps. Hein, c'est pas parce qu'on essaie de voir où sont les dimensions problématiques que pour autant on va pas faire, on va pas être présent. D'ailleurs, Jean-François le disait ce matin, après tout, mieux vaut faire de manière incomplète que de rien faire du tout et d'être complètement absent. Alors par rapport au numérique, moi, il me paraissait important de revenir sur la question de l'éducation et des institutions. Parce que quoi qu'il arrive, la question des institutions, elle est posée systématiquement. Alors j'excuse Dominique Quéré qui malheureusement, quand on avait pris la date, n'avait rien de prévu et qui a une réunion nationale des DAN, hein, directeur aux affaires numériques. Hein. Il m'a dit de l'excuser, mais la prochaine fois il viendra pour expliquer ce qui s'est fait. Je remercie Jean-Michel qui a en ce moment une charge de travail un peu particulière puisqu'il coordonne un événement dont Jean-François a parlé ce matin in fine, on en reparlera tout à l'heure. Donc merci d'être là Jean-Michel. Petite capsule qui me paraît indispensable quand on va la projeter sur le site internet de Mendès pour refaire un petit point d'histoire. On a parlé anecdotiquement du CNED ce matin grâce à Christophe Mbouarqué à l'occasion d'une expérience personnelle que j'ai vécue quand j'avais 6 ou 7 ans. Le CNDP a fait partie depuis très longtemps, d'un des piliers du paysage éducatif français, fait partie des fleurons en termes de production. Moi, je voulais avoir ton sentiment sur l'évolution qui s'est accélérée ces 5 ou 6 dernières années. Comment on passe du multimédia et de ces supports comme ça, un petit peu ponctuels, à quelque chose de systématique, et comment est-ce qu'on intègre dans une relation aux collègues enseignants, école, collège, lycée, puisque je rappelle que c'est le champ d'application principal. Donc comment est vécue cette évolution dans le rapport entre éducation et numérique ?
Écoute, merci pour cette question. Et en fait, à écouter les interventions précédentes et en répondant en même temps à ta question, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. Tu as parlé d'accélération, Patrick a parlé d'Arthur Troza tout à l'heure, et l'accélération de la société, évidemment, est très très bien décrite, et elle a un impact évidemment sur l'éducation aussi. Donc beaucoup de choses ont changé, mais il faut se poser la question de qu'est-ce qui a changé dans l'éducation ou ailleurs dans la société. Et aussi, qu'est-ce qui n'a pas changé ? Et je trouve, dans ce que j'ai aussi entendu tout à l'heure, il y a plein de choses qui n'ont pas changé dans nos représentations. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que le numérique, c'est un outil. Ça fait longtemps que pour moi, ce n'est pas simplement ça. C'est un outil, on est d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si, je suis d'accord, c'est un outil. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant, je l'expliquerai après. Et typiquement, ce qui a changé, eh bien, ce sont les outils. C'est la technique. Et le discours sur la technique nous apprend, si on reprend Jacques Ellul par exemple, que la technique c'est autre chose que simplement un outil. C'est bien plus qu'un outil. Et ce matin, vous vous êtes posé la question de la culture, culture numérique. Donc c'est aussi une culture, c'est un outil et une culture. Et c'est une aussi transformation des pratiques sociales. Et quand on regarde tout ça, ça a changé. Et depuis 30 ans, du plan informatique pour tous, où en fait on installe des ordinateurs dans des salles d'informatique, avec des enseignants qui viennent de temps en temps, un par un, à ce qu'il y a aujourd'hui dans les écoles, avec Internet, avec les smartphones, avec le temps et l'espace qui a été bouleversé, on ne peut pas dire que ça n'a pas changé. Mais en même temps, ce qui n'a pas changé, c'est qu'on pense que toujours que c'est qu'un outil. C'est-à-dire que si c'est un outil, il faut apprendre à l'utiliser. Et quand on sait l'utiliser, un marteau aussi, c'est très sensible hein, comme outil. Hein. Si on rate le clou et qu'on se tape sur le doigt, on a une expérience sensible qui n'est peut-être pas trop artistique, mais l'outil peut être donner des expériences sensibles. Et donc, je pense que ce qui n'a pas changé encore, c'est la représentation que l'on se fait des outils et de la technique. Ça n'a pas changé. Ce qui fait qu'on essaie toujours de suivre l'évolution des techniques en adaptant nos pratiques à l'évolution des techniques. Et évidemment, avec le numérique et où les innovations de rupture ont lieu tous les 3 ans à 5 ans, eh ben on n'y arrive pas. Et on n'y arrive tellement pas que ce qu'on peut voir, ce qui n'a pas changé dans les pratiques, cette fois-ci plus des enseignants, c'est une généralisation des pratiques pédagogiques avec le numérique. Ce qui a changé, ce sont les pratiques dans les établissements scolaires, les pratiques administratives. Aujourd'hui, 90% des enseignants dans les établissements du secondaire utilisent le numérique pour toutes les fonctions administratives. Ils sont pourtant, c'est les derniers chiffres de l'enquête éthique 2018 que je vous donne. Alors certains, je les ai de tête, d'autres, je les ai notés pour pouvoir vous les donner. Aujourd'hui, sur les enseignants qui ont été interrogés, 55% simplement des enseignants du secondaire, c'est-à-dire collège-lycée, utilisent le numérique dans des fonctions qu'ils qualifient de simples. C'est-à-dire, généralement, c'est un ordinateur dans la classe et puis de la vidéoprojection. Dès qu'on arrive à une utilisation experte, eh bien, c'est 11% simplement qui ont totalement intégré le numérique, toujours dans le secondaire. Donc, ce qui a changé, c'est qu'on s'est adapté à des pratiques qui sont des pratiques liées à l'évolution des techniques et à une utilisation des techniques. Ce qui n'a beaucoup moins changé, c'est notre représentation des évolutions liées au numérique. Et donc, évidemment, ce qui a aussi moins changé, c'est un certain nombre de pratiques sociales. J'entends aussi, a été cité tout à l'heure de Certeau sur les détournements. Les détournements, c'est assez intéressant, évidemment, parce que c'est une forme d'appropriation. Mais il n'y a pas que ça dans l'appropriation. L'appropriation, de Certeau, d'ailleurs, il en parle parce qu'il dit, pour moi, quelque chose qui est hyper important, c'est qu'il ne parle pas des usages sociaux, mais il parle des usages des individus. C'est-à-dire que les individus, face à une forte contrainte, il emploie d'ailleurs le terme de société société informatisée à l'époque, déjà en 84 ou 85, technicisée et informatisée, exactement, c'est la phrase. Et il dit, derrière ces contraintes-là, l'individu fait comme les chasseurs ruraux de naguère, et en fait, il dit oui comme ça, il dit oui, c'est génial, et en fait, il pense une seule chose, je ne vais surtout pas l'utiliser. Et je pense que les enseignants français, ben, ils sont un petit peu dans cette situation-là, qui est un problème aussi qui est lié à l'appropriation des techniques, qui passe par une utilisation, qui passe par peut-être des détournements, mais qui passe aussi sur une, à, qui est lié à une injonction sur l'individu dans le cadre de sa pratique professionnelle, qui fait que pour lui, c'est extraordinairement difficile de s'adapter à des injonctions continuelles qui ont lieu bah, au fil du temps, tous les 5 ans, à chaque nouvelle invention. Et on voit bien que ça pose des difficultés énormes parce qu'on n'a pas encore suffisamment, je pense, travaillé sur nos propres représentations et de la technique et des évolutions pour pouvoir rendre le numérique suffisamment acceptable. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'acceptabilité ? Ils disent le numérique, c'est génial pour préparer son cours. 95% des enseignants sont d'accord avec cette idée. Ils sont d'ailleurs assez nombreux à le faire. Ils sont plus de 50 ou 60% à le faire. Ils disent c'est très très bien, ça rend les cours attractifs. Donc ils ont, ils sont aussi persuadés que ça rend les cours attractifs. Mais pourtant, ils ne les utilisent pas, hein, on l'a dit tout à l'heure, sauf en vidéoprojection. C'est peut-être ça un cours attractif. Ils disent c'est à 85%, c'est bien pour échanger, pour communiquer. Et évidemment, les technologies de la communication, tu parlais tout à l'heure, 5 ans, depuis 5 ans, aujourd'hui, depuis 15 ans, les technologies de la communication font que là aussi, les technologies ayant tellement évolué, les pratiques évoluent aussi beaucoup. Donc ils disent c'est très très important pour échanger. Ils disent c'est très bien aussi pour diversifier les pratiques à 69%. Ça, c'est ce qu'ils annoncent. Et puis après, quand on leur parle des élèves, ils disent oh, ça peut permettre aux élèves de progresser à 70%, ils pensent que oui. Pour le travail personnel des élèves, 71%. Pour l'autonomie des élèves, 70%. Et pour la créativité, 65%. Et ce qui est intéressant, parce que là, on peut regarder des évolutions, sur les deux derniers, autonomie et créativité, les chiffres baissent par rapport à l'enquête précédente. C'est-à-dire qu'avant, ces représentations étaient très installées, puis elles ont tendance à baisser un peu chez les enseignants aussi. Donc, voilà, bon, pour, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Exactement. Mais je crois que cette idée de changement, elle est maintenant installée dans les têtes de tout le monde. Les idées de la potentialité, c'est aussi installé dans les têtes. Je pense que le fait de relier ça simplement à un outil qu'on doit apprendre à utiliser ou s'approprier, C'est un peu piégeux parce que ça ne suffit pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de généralisation ou il n'y a pas d'utilisation plus marquée ou plus importante. Et il faudrait regarder de manière plus précise en fonction des niveaux, des disciplines, pas mal de choses. Mais malgré tout, on sait que les usages sont surtout administratifs et pas tellement pédagogiques. Donc je crois qu'il y a matière, et ça a dû être dit ce matin parce que Jean-François est là et peut-être d'autres personnes aussi, l'éducation au numérique est un élément excessivement important. Il faut comprendre la société dans laquelle on vit. Il faut comprendre la société, comment elle évolue et quelles sont les transitions qu'elle doit vivre pour pouvoir ensuite enseigner dans de bonnes conditions et avec une certaine confiance.
Oui, là, ça décoiffe un peu cette affaire. Justement, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une intervention de ce matin, rappelant Edgar Morin. Et ces 30 dernières années d'intervention sur l'éducation. Dans son ouvrage « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur », plus un peu, mais c'était un peu plus, général, la tête bien faite, notre ami Edgar Morin constate l'incapacité du monde enseignant, mais pas que en France, à enseigner ce qu'est apprendre, à enseigner ce qu'est être un être humain. Donc, toi, tu viens compléter en disant, finalement, on enseigne avec le numérique, mais on n'enseigne pas à la société ou sur la société numérique. Il n'y a pas d'enseignants qui ont juste les 3 minutes qui vont bien en début d'année, mais qui approfondissent auprès de leur public ce qu'est vivre à l'ère numérique sur le plan personnel, démocratique, citoyen, professionnel. Tu aurais des propositions à faire dans ce cadre-là ?
Je ne sais pas si j'aurais des propositions. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que l'éduquer au numérique passe évidemment par une compréhension des transitions, des transformations et quel est l'impact. Et les outils ont un impact sur notre pratique quotidienne, sur nos pratiques sociales, sur notre façon de vivre, nos manières de vivre. Ça n'est jamais étudié ou discuté, si, peut-être par des experts. Il y a un autre changement aussi important, je pense aussi justement dans excuse-moi, c'est l'esprit escalier, j'y vais très, très librement. C'est qu'aujourd'hui, une des grandes transformations liées aux technologies de l'information et de la communication qu'on n'a pas vu arriver, c'est que les gens sont de plus en plus participatifs, avec tous les excès qui peuvent exister. Et mettre en place cette éducation au numérique dont on est en train de parler revient aussi à questionner la manière dont on va le mettre en place. Et dans les solutions, c'est pour ça que je parle de ça, dans les solutions que tu me disais, est-ce que tu as des solutions ? Je pense qu'un des éléments qui aujourd'hui peut-être n'est pas encore dans les représentations des personnes qui décident la manière dont vont se développer les nouveaux programmes ou les nouvelles politiques de déploiement ou de développement, n'est pas encore assez intégrée l'idée de participation active des acteurs eux-mêmes. Et on est encore trop dans une vision qui est une vision peut-être, je sais pas, un peu technocratique de nos sociétés où la politique est liée à des programmes que l'on doit mettre en place et d'une manière de plus en plus rapide aussi, et qui laisse peu de part au temps de concertation, de négociation, de collaboration, de coopération entre acteurs pour définir ce qui leur conviendrait le mieux. C'est un sujet qui me semble éminemment important aussi. Je relisais pour venir le rapport auquel a participé Jean-François de la Cour des comptes, et dans le résumé de ce rapport-là, il est dit qu'il faut les priorités de l'État, c'est la formation et l'appropriation par les enseignants. C'est l'accès aux ressources et c'est la protection des données, parce que ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec l'individualisation, ce qu'on nous dit, les promesses de l'individualisation des parcours d'élèves grâce à l'intelligence artificielle, la prédiction aussi de la difficulté grâce à ça, et donc il faut aussi une protection. Mais tous ces éléments-là, ces priorités de l'État, à aucun moment il est écrit dans les manières de faire qu'il va falloir aussi partir des acteurs et des besoins des établissements eux-mêmes et des acteurs eux-mêmes, des enseignants eux-mêmes dans la classe ou des élèves eux-mêmes. C'est jamais dit de cette façon-là. C'est dit dans le rapport de la Cour des comptes d'une manière très bien. L'analyse est excellente sur où nous en sommes, de ce qui a été jusqu'à maintenant fait et ce qui n'a pas été fait dans le service public du numérique pour l'éducation. Mais en même temps, les solutions qui sont des solutions qu'on entend depuis le plan IPT, depuis 1985, formation des enseignants, accès à des ressources de qualité et facilement. Aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus, il y en a partout, dont celle de Réseau Canopée, mais il y en a plein. Accès à des ressources, formation des enseignants, capacité d'avoir les infrastructures et les outils à disposition et qui soient des outils suffisamment simples pour pas qu'il y ait trop d'efforts d'appropriation et d'utilisation. Tous ces éléments-là sont dits dans tous les rapports depuis 30 ans, hein, à chaque fois. Et pour autant, on sait que on parle des compétences du 21e siècle, on sait qu'il y a de nouvelles compétences. Edgar Morin parle d'une école, justement dans les 7 savoirs fondamentaux, qui est différente et qui enseigne des problématiques différentes. Et on ne parle très très peu de collaboration et de participatif, ou même, on parle depuis toujours dans les programmes, moi j'ai re-regardé les programmes de 85, on parle toujours de pédagogie active dans les programmes. On parle toujours de l'élève actif dans son apprentissage, au centre de l'apprentissage, au cœur de l'apprentissage. Pour autant, dans les méthodes, elles n'ont pas évolué. Ou peu. Si. Alors, par endroit. L'autre élément qui est important, c'est qu'on a de merveilleuses expérimentations dans plein d'endroits. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on peut rencontrer des enseignants qui utilisent le numérique, on a plein d'expérimentations très, 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 très valeureuse, avec des gens investis, avec des gens qui ont fait ce chemin, mais c'est jamais dans la généralisation. Mais c'est contestable tout ce que je dis, hein, évidemment.
Le temps de réapprendre aux élèves à réfléchir. l'éducation numérique en réalité. Parce que là, ce qu'on a notamment à transmettre aux jeunes, c'est de ne pas transmettre de l'information, mais d'avoir conscience de leur responsabilité par rapport à la désinformation. Et on, quand on fait ça, on fait pas, on n'a pas forcément l'impression de faire du numérique, mais en réalité, pour moi, on fait de l'éducation au numérique.
Oui, je suis d'accord.
Créer,
oui. Oui, l'accélération alors pour le coup des pratiques sociales et en dehors de l'école aussi rendent les enseignants démunis par rapport à tout ce que tu dis, hein, ça c'est certain. Alors, après, l'autre élément important que dit le rapport de la Cour des comptes sur l'éducation, pour le coup, et sur le rôle du ministère de l'Éducation et de l'institution elle-même, elle dit que les deux grandes priorités, c'est justement cette éducation au numérique et transformer les pratiques pédagogiques. C'est toujours les deux sujets qui apparaissent comme étant les sujets majeurs qu'il faut essayer de mettre en œuvre plutôt que de s'occuper de plans d'équipement. C'est cette idée de plan d'équipement qui a perduré pendant 20 ans, alors quelquefois de la part d'une collectivité, quelquefois de la part de l'État, etc., a montré aussi de sérieuses limites en termes d'appropriation et de développement. C'est pas parce qu'on met des tablettes dans les classes, pour le dire simplement, qu'il va y avoir des usages qui vont se développer, des usages et des pratiques pédagogiques qui vont se transformer. On le savait, c'était même avant le plan, on le savait. C'était déjà dit, c'était déjà écrit. Mais voilà, ça c'est des éléments qui sont effectivement très importants. Il faut transformer les pratiques. C'est un levier de transformation des pratiques à partir du moment où les temps d'appropriation, tu l'as rappelé Patrick tout à l'heure, il faut pas oublier dans l'appropriation le temps. Évidemment, les temps d'appropriation et les temps acceptables d'appropriation sont aussi à prendre en compte, en sachant qu'on a un enjeu qui est l'enjeu à chaque fois de la technique qui, elle, continue d'évoluer très vite, quoi. Et qui, elle, est toujours là en tension par rapport à la capacité de s'approprier des techniques.
Alors, de ton point de vue, comment on fait évoluer le système ? Parce que le constat, d'ailleurs, lors du temps de parole de Éric Lambert et Jean-François Cerisier, cette ambivalence entre l'hyper-éclatement des capacités à accéder à l'information et puis la centralisation relative de l'éducation, de la formation pour échapper à quelques dérives qui seraient des dérives de démantèlement d'une éducation nationale. Comment est-ce qu'on lit les deux de ton point de vue ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a une chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas lié qu'à l'éducation nationale. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'art et de culture, et on a vu, à part le Préac, on a vu quand même il y a beaucoup de silos en France. Et les silos sont toujours persistants. Vous avez la chance de travailler avec le ministère de la Santé, ou en tout cas un hôpital, etc., et de faire des passerelles comme ça entre des gens qui, pour le coup, n'auraient pas l'occasion de le faire grâce à un développement artistique, et c'est absolument génial. Et ce premier élément-là, c'est que je pense que l'école, comme les autres domaines aujourd'hui ou les autres silos, il faut arrêter les silos, il faut arriver à parler avec les autres. Le développement artistique et culturel, il est éducation nationale et il est ministère des Arts et de la Culture, et il est peut-être à développer avec d'autres partenaires. Les histoires de qu'on disait tout à l'heure aussi, l'autre élément dont on peut parler, c'est que tous les plans d'équipement qui ont lieu, ils ont lieu en fonction du millefeuille administratif en France, c'est-à-dire quelquefois ce sont les communes, quelquefois les collèges, les départements qui achètent, quelquefois ce sont pour les lycées, ce sont les régions. Et chacun le fait, peut-être pas toujours en concertation avec l'État. Typiquement, un des conseils de la Cour des comptes dans son dernier rapport, c'est de dire qu'il faut évidemment, pour que le service public de l'éducation nationale fonctionne, il faut qu'il fonctionne avec un vrai comité des partenaires qui intègre les collectivités, mais à mon avis qui devrait intégrer aussi le ministère des Arts et de la Culture aujourd'hui. Les sports, enfin les sports et la jeunesse, c'est avec l'éducation nationale actuellement. C'est vrai que ça change parfois. Et que ces comités des partenaires soient aussi des comités des partenaires régionaux. C'est-à-dire que chaque région ait aussi la main et un temps de décision dans ces politiques qui sont développées. Donc déjà, en termes d'organisation, il y a une organisation partenariale qu'il faut absolument mettre en œuvre. Et puis l'autre élément, c'est que cette organisation-là mise en œuvre, elle doit questionner le terrain, elle doit être mise en œuvre avec les enseignants, avec les personnels administratifs, avec les personnels techniques. On ne parle jamais des personnels techniques dans les lycées ou peu. Pourtant, les personnels techniques qui travaillent à côté des équipes éducatives, elles ont aussi aujourd'hui, elles sont aussi, il y a un impact du numérique aussi pour leur développement personnel et professionnel. Donc en fait, je pense qu'on manque aujourd'hui peut-être, moi, mais on défend ça depuis de nombreuses années, moi je pense qu'on a des vraies questions de société sur la protection et avoir un regard sur la technique qui permette de mettre l'humain avant la technique, ou en tout cas ce que la technique fait à l'humain, et il faut le développer, et il faut développer aussi d'un autre côté des modalités beaucoup plus participatives et actives de co-construction, de façon à pouvoir ensuite réengager des actions qui soient concertées et communes et où en fait on apprend aussi en faisant.
Donc, comment dire, si ce n'est le conflit, du moins la confrontation entre techno et techno et humanité, il n'est pas terminé.
D'autant plus que j'entendais aussi tout à l'heure, tu disais Patrick, le terme EdTech, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi je pense qu'on sait ce que c'est, hein, le terme EdTech. Hein. Je pense que le terme EdTech, c'est aujourd'hui 4,5 milliards investis chaque année par la Chine, c'est 1,2 milliard investis par les États-Unis dans les technologies de l'éducation. C'est des vraies sociétés multinationales mondiales qui investissent l'éducation comme le reste, d'ailleurs, comme la santé, comme autre chose. Et il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, on parle de plus en plus de la potentialité, par exemple, de la prescription ou de la prédiction en intelligence artificielle à partir du moment où on récupère les bonnes données en temps réel. Eh bien, typiquement, celui qui saura dire ou qui saura déceler plutôt en santé le cancer de quelqu'un et qui trouvera le moyen de le guérir plus tôt, cette société-là, exactement comme le séquençage de l'ADN, elle existera. Eh bien, dans l'éducation, c'est la même chose. Donc les techs existent, la filière existe, elle se structure en France, elle est beaucoup plus petite, c'est 15% des investissements mondiaux, hein, c'est rien par rapport au poids de la Chine et des États-Unis, mais ça existe. Ça existe et ça fait partie de l'écosystème. Et donc, quand je parlais tout à l'heure des partenariats institutionnels, collectivités en France, et ministère de l'Éducation nationale, État, art, faut aussi certainement d'autres acteurs, mais il faut aussi les entreprises qui sont en train de se développer. Cette filière, elle se développe. Ben, c'est l'investissement dans des entreprises et des start-up. C'est l'investissement
ben
dans
oui,
des
oui, j'entends bien start-up parce que
qui crée une offre.
C'est présenté comme ça, mais c'est pas très évocateur pour les gens de terrain de parler en milliards de dollars. On l'a vu sur d'autres tribunes. Et moi, ma question derrière tout ça, c'est un moment, on parlait de... Alors, bon, c'est peut-être la préhistoire, mais en 2014, une officine qui s'appelle le Centre National du Numérique, CNN, avait fait une étude et parlait à l'époque de mots que je trouvais assez intéressants. Bon, il y avait l'anglicisme, évidemment, empowerment, mais je préfère la version française, le pouvoir d'agir. Et puis derrière, on revenait dans cette définition qui me semble assez intéressante du pouvoir d'agir avec, pour et en fonction des endroits. Et était déjà définie cette notion de l'éducation par le numérique, l'éducation pour le numérique et l'éducation avec le numérique. Et ces petites nuances qui, pour les gens de terrain, au-delà de définition, je suis désolé, mais en milliards de dollars, ont peut-être plus de sens sur le sens même de cet objet qu'on appelle EdTech. Parce que on va dans tous les colloques sur la EdTech, qu'est-ce qu'on nous sert ? On nous sert des fromages avec des milliards de dollars, mais ça définit rien.
C'est la structuration d'une filière économique.
Oui, mais, voilà. mais malheureusement...
C'est la structuration d'une filière économique qui
est sur un
marché
je pense c'est un élément important qu'on ne remet pas en cause, mais c'est quand même dommage de le définir que par cet élément. C'est ça que je veux dire derrière. Enfin, en tout cas, c'est une remarque et une critique que je pose par rapport à ces mots-là qui sont posés et définis que par des fromages qui nous font des projections en coûts de milliards de dollars. Enfin,
alors,
voilà.
Alors peut-être que le problème qui est posé, je ne suis pas sûr que l'industrie du camembert ramène des milliards de dollars. On est plutôt en centaines de millions d'euros. Mais c'est pas grave. La question qui est posée, ça fait l'objet du débat, un débat récemment, un vendredi matin, pour préparer une proposition qui s'appelle Infine. C'est tu ne feras pas de camembert avec des milliards de dollars sur l'éthique et la protection des plus démunis. En même temps, alors je vais finir. En même temps que je dis ça, dans quelques secondes, on va passer la parole à Christophe Bouarquet. Je voudrais, tu vas lui poser ta question, Christophe. je voudrais dire ou redire que nous les Français, Guido Girardi, président du Sénat du Chili, a dit dans cette salle il y a un an et demi, vous les Français, vous ne sortez plus de votre nombril depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Grosso modo, quand vous voyagez en croisière Costa, vous ne voyez rien du monde. Alors si je dis ça simplement, c'est qu'à contrario, Girardi, ici, tu étais là, il a dit nous, à l'extérieur de votre pays qui s'appelle la France, on attend de vous des choses sur l'éthique, les valeurs, etc. Donc en même temps qu'on s'insère dans un machin qui s'appelle EdTech, moi je dirais ce que j'en pense donc à la fin de la journée, moi, je pense que la France, les Français, avec des valeurs culturelles, y compris les valeurs de Ronchon, là, dont je parlais au début, a des choses à dire ou à redire à nos compatriotes, à nos amis d'autres pays, sur la question de certaines valeurs dans un rapport à une production qui est absolument massive et c'est un véritable tsunami de propositions plus ou moins... comment dire, plus ou moins pertinentes, qui arrivent parce que les capacités de production sont là. Donc, dont acte, mais que fait-on de ça avec la dimension que nous, on peut immodestement proposer, et je sais que, mais Christophe le redira, dans beaucoup de pays à l'étranger, moi je vais commencer mes cours à l'université de Baton Rouge en Louisiane, moi on m'a demandé de préparer un PowerPoint, comme on dit en français, sur la Révolution française et Condorcet. J'ai rien demandé, hein, c'est une demande de leur part. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande de sens. Alors, les valeurs, on ne les impose pas, mais on en rediscute. Donc, moi, je pense qu'il va se passer quelque chose. Enfin, je ne sais pas ce que Jean-Michel allait dire cet après-midi, mais il va se passer quelque chose. Et c'est pour ça, quand on reparlera d'Infine tout à l'heure, moi, je pense qu'on a une valeur ajoutée.
Oui, non, mais c'était un peu ma conclusion.
Bon, pardon, excuse-moi.
Par ce que disait Patrick, c'était ça. Non, mais typiquement, je pense que la vision française sur les technologies, il faut se rendre compte qu'il y a un marché que j'ai rappelé tout à l'heure sous forme de camembert, ou pas de chiffres en tout cas, qui existe. Et puis il y a une vision française qu'on défend qui est quand même sur d'autres valeurs et où on veut questionner aussi le numérique et la transition liée au numérique par rapport à l'éthique, par rapport à la responsabilité de chacun, par rapport à la protection des individus, parce qu'aujourd'hui les données, on voit bien hein, toutes les questions qu'on a, et de la planète, et évidemment aussi l'aspect éco-responsable. Et là, enfin, on parlait, et dans tout ce que vous avez montré dans les expérimentations, où en fait on voit une activité numérique qui n'est pas, qui est frugale en fait, c'est absolument génial. Et je pense qu'on a à montrer dans Infine à la fois cette originalité-là et ce positionnement de la France. Quelles questions on pose à la planète qui est en train de se transformer ou qui est en transition numérique? Comment on les pose, comment on réfléchit ensemble là-dessus. Et donc, me semble-t-il, en plus, à un moment donné, où quand même, il y a des vraies questions et une vraie prise de conscience un peu globale sur ces sujets-là. Donc, ce positionnement d'Infine, pour moi, c'est un positionnement absolument majeur qui nous fait être dans, dans un futur proche, un des acteurs de cette réflexion-là. Oui. Et puis c'est très bien que ce soit sur ce territoire.
Christophe, tu voulais poser une question.
Rien que... Je veux savoir si, bien entendu, un numéro, vous avez dit 11% seulement des professeurs utilisent le monde numérique.
Alors, l'utilise d'une manière... Alors j'ai pris des chiffres voilà, d'une manière pédagogique et j'ai pris des chiffres, ceux qui... Je ne l'ai pas signé tout à l'heure, quotidiennement.
Quotidiennement.
C'est-à-dire qu'on peut considérer ceux qui ont une telle appropriation des outils mis à leur disposition, des services qu'ils peuvent permettre à leurs élèves d'accéder eux-mêmes à des outils, à des services numériques, à des ressources numériques, et l'utilisent quotidiennement dans leurs cours. Ils sont 11%.
Avec ces numéros, j'ai une question.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans les écoles où étudient aujourd'hui les professeurs de demain?
Ah, c'est une excellente question. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles, dans les nouvelles INSPE, les instituts nationaux du professorat, de l'enseignement et du professorat? Il se passe que c'est une question qui est évidemment éminemment posée. Il y a quelques cours qui sont consacrés à la culture numérique, qui sont très peu nombreux. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. Je pense qu'il y a aussi un signal fort pour le coup de l'État sur ce sujet-là, puisque l'État a lancé un programme dans le cadre des financements d'investissement d'avenir sur un INSPE, alors dans un institut national supérieur de l'enseignement et du professorat numérique, donc à distance, de façon à justement, là encore, peut-être questionner les instituts sur leur capacité à s'emparer de cette problématique-là. Et peut-être que, voyant que cet aspect n'est pas traité d'une manière très très importante dans ces instituts, eh bien, a aussi pensé la possibilité ou la solution de créer un institut numérique.
Merci. Bon, momentanément, Jean-Michel, je vais te relâcher. Tu veux pas qu'on fasse... Oui. On fait une petite pause café, puis après, je donnerai la parole à Christovam, qui viendra nous parler de ses réflexions sur l'éducationnisme et sur le futur de l'éducation. On va prendre un petit café avant, d'accord ? Bien. Nous avons 10 minutes d'avance. C'est extraordinaire. donc je suis heureux d'être à la tribune avec mon ami Christophe Mbouerke. Alors simplement avant de lui laisser la parole, parce que je lui ai assigné une prospective à plusieurs siècles de l'éducation, je voulais vous dire dans quel cadre Christophe se retrouve parmi nous aujourd'hui et puis un petit peu plus tard plusieurs fois. Donc avec Christophe, on s'est rencontré en 2007. Lors des universités internationales d'été que nous menions à l'époque avec Edgar Morin, Christophe m'avait assuré un certain nombre de tables rondes dans ce magnifique endroit qui est le centre européen, l'ancienne abbaye de Saint-Savin. Et de fil en aiguille, quasiment tous les ans jusqu'en 2012, Christophe est venu à Niort, à Poitiers, à l'espace Mendès France. On s'est retrouvé à Palma de Tocantins pour une université internationale qui restera dans les annales, certainement, y compris la dernière conférence faite dans un amphithéâtre de 4000 places, plein à craquer, silencieux, écoutant Michel Brunet sur les origines de l'homme, avec une salle de 4000 personnes entièrement dévouée au créationnisme. Donc vous imaginez l'ambiance. C'était très plaisant, voilà. Donc, et avec Christophe, on a développé une discussion permanente sur la question de l'éducation. Il a accepté, je le remercie, d'être parmi nous aujourd'hui. Demain, il est à Oxford pour présenter son livre dont je vous ai parlé ce matin. Dans 15 jours, 19, 20, 21 février, il sera de retour à Poitiers pour une résidence d'écriture, puisque Michel Brunet et lui ont décidé l'an dernier, lors des 30 ans de Mendès France,
d'écrire un livre sur la question des migrations et des enjeux de la planète au cœur desquels se place l'éducation, mais il va peut-être dire un mot. Son livre écrit en portugais et traduit en anglais, qui s'appelle « Nous sommes tous des Méditerranéens », je l'ai traduit grâce à l'aimable complicité de Jean-Charles Khalifa de l'Université de Poitiers. Donc ce livre, on l'éditera à la rentrée d'octobre. Donc Christovam reviendra nous voir à ce moment-là. Et puis on a ensemble un projet de diffusion autour de cette question de la destinée humaine et de l'identité humaine dans l'esprit de Terre-Patrie d'Edgar Morin. On a quelques projets pour les 2-3 ans qui viennent en partenariat avec nos amis de l'UNESCO. Et dernier point, donc ce que je disais, et c'est un plus dans nos discussions, Christova m'a rejoint un groupe de réflexion internationale dont on a parlé hier sur les futurs de l'éducation. Peut-être en diras-tu un mot. Et je lui disais qu'à Poitiers, il y avait un petit réseau de militants, d'intervenants universitaires, éducateurs, scientifiques, médiateurs, etc., qui étaient tout à fait disposés à apporter des contributions à cette interrogation sur le futur de l'éducation. Donc je te réitère devant nos amis, et ça sera sur notre site dans quelques jours, le fait que nous sommes tout à fait partie prenante, et peut-être qu'on en redira un mot par rapport à Infine, qui me paraît, sur la discussion de tout à l'heure, en termes d'éthique, de valeur, aller dans le sens de ce que nous recherchons par rapport à cette avancée. Donc Christova, merci d'être avec nous cet après-midi. Je te laisse la parole.
Bonjour à chacun et à chacune. En réalité, je dois dire merci bien à toi pour l'opportunité d'être à Poitiers et avoir la chance d'une expérience comme nous avons eu cette journée. Je vais dire sur les livres qu'on doit faire avec Michel Brunet. L'idée, c'est de savoir du premier de l'origine de l'homme, l'ultime, le dernier homme, si on ne fait pas ce qu'il faut faire. Et Michel Brunet, c'est la personne pour parler de ça. Il est aujourd'hui, dans la science, le plus ancien homme, ça a été découvert par lui au Tchad. Et il a une tête qui peut très bien penser les défis du futur. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui ici, c'est que nous sommes au début du futur. Quelques des exposés, c'est des idées du futur. Mais que nous sommes déjà avec ces idées. Mais un futur qui ça commence. Et ça commence avec un espoir très grand du point de vue technologique, scientifique, et une dystopie, la phrase, du point de vue social et même moral. Nous avons devant nous la possibilité de cette catastrophe écologique et nous avons devant nous la possibilité d'une catastrophe morale, de l'inégalité sociale devenir une rupture biologique. Les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, divisés entre un groupe génétiquement supérieur et un groupe génétiquement inférieur, du point de vue de la santé, du point de vue de la raison, du point de vue de la consommation, des conforts, des catastrophes. Et pour éviter ça, je crois qu'on n'a plus l'idée du socialisme ou du développement capitalisme. Ce n'est pas une question économique, ce n'est pas une question même seulement sociale du point de vue des rapports entre les gens. C'est une question de changement de mentalité, de la proposition du futur que nous voulons, l'humanité. Et la mentalité, c'est le produit de l'éducation. C'est pour ça qu'on utilisait depuis ce temps-là l'idée d'éducationnisme comme une stratégie du futur. Tout le monde, avec une bonne éducation, il faut discuter qu'est-ce que cela veut dire, bien sûr. Et ces gens qui viennent après nous, très bien éduqués, pas seulement élevés, pas seulement instruits, mais éduqués, cela veut dire philosophiquement, moralement, techniquement, ces gens qui viennent après nous, ils vont être capables de faire un nouveau monde. C'est l'éducationnisme, je crois, qu'on a besoin pour faire face aux défis de l'humanité. C'est ça qu'on veut travailler avec Michel, les défis de l'humanité. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu, et je parle spécifiquement un peu après, c'est que l'éducation que nous avons besoin, c'est une éducation qui fait chaque personne respecter la nature. La nature ne peut pas être seulement la source des ressources et le destin de la basure. On doit avoir une communion avec la nature. Il faut avoir, parmi cette éducation, une solidarité générale avec les êtres humains, y compris avec les autres animaux. La solidarité et le respect. Il faut avoir les goûts pour la beauté et enjouir avec l'esthétique. Il faut, parmi cette éducation, chercher toujours la paix, pas la guerre. Il faut avoir un rapport avec la technologie de l'information et l'intelligence artificielle. On ne peut pas éviter ça. Il faut savoir vivre avec ces possibilités. Pour ça, nous avons besoin de faire l'éducation de l'éducation. L'éducation doit changer. Elle doit changer dans les objectifs, elle doit changer dans les outils qu'on utilise. D'abord, il faut dire que l'éducation doit être un problème mondial. Hier, j'ai entendu de Didier une chose que je pense amener à cette commission. L'idée d'une organisation mondiale de l'éducation. Ce n'est pas l'UNESCO d'aujourd'hui. Peut-être elle peut devenir ça. Pourquoi on a une organisation mondiale du commerce? Une autre pour l'environnement, une autre pour l'énergie. Nous n'avons pas une pour l'éducation. Chaque pays a son souci sur l'éducation. Dans plusieurs pays, pas même le pays, c'est chaque ville. Mais l'éducation, c'est le futur de l'humanité. Le futur de l'humanité, il est dans l'éducation de chaque personne au monde, n'importe où cette personne est née, où cette personne vit. Alors, il faut avoir une perception globale, en respectant la diversité. Pas imposer la même éducation pour chaque personne. Non, chaque ethnie doit définir sa manière spécifique. Mais la préoccupation, le souci, les ressources doivent être du monde. Pour ça, avec ça, il faut, pour éduquer l'éducation, il faut avoir les objectifs, j'ai déjà parlé, mais il faut aussi être au futur. Et là-dessus, comme nous avons vu aujourd'hui, il faut utiliser ce qu'il y a de plus moderne dans la société, dans la civilisation, dans le monde numérique. On ne peut pas rester avec une école du 19e siècle dans un monde qui est déjà presque à la moitié du 21e siècle. On discutait auparavant sur la violence dans les écoles. Dans mon pays, c'est affreux, la violence. Mais je crois qu'il y a aussi une discipline. Les étudiants ne sont pas très bien, comme on disait, comportés. Mais c'est naturel. L'école n'aimait pas les étudiants. Alors, les étudiants n'aimaient pas l'école. Alors, il n'y a pas raison pour qu'ils soient pacifiques. Les outils qu'on utilise dans les écoles aujourd'hui, et nous avons vu que seulement 11% utilisent vraiment les nouveaux outils, quand les enfants utilisent 100% les outils nouveaux, en dehors de l'école. Quand ils vont à la banque, quand ils parlent avec ses amis, quand ils vont partout, ils utilisent le monde numérique. Et à l'école, ils utilisent un monde pré-numérique. Alors, nous devons faire cette évolution. Et Emmanuel Porte, par exemple, le matin, il a parlé sur les avantages. Il m'a fait penser quels sont les avantages. Il a même proposé quelques-uns. Mais je crois que le dialogue en masse, vous pouvez parler avec tous, n'importe où, approfondit les sujets d'études. Il a parlé de l'éducation populaire. Avec le numérique, les instruments numériques, vous pouvez avoir dialogue en masse. Vous pouvez approfondir le sujet. Vous pouvez avoir la simultanéité des informations. Vous pouvez avoir la diffusion des informations et de la formation. Et vous pouvez faire un mix, un mixage, même un mélange entre éducation et culture. Mais là-dessus, je vais dire quelques inconvénients. À partir d'une question que j'ai posée sur l'enfant Didier et l'enfant numérique. Vous vous rappelez de l'histoire qu'il était quelques mois chez lui. J'ai fait une liste des avantages qu'un garçon numérique a aujourd'hui sur le garçon Didier, 50 ans auparavant. 5 ans ? Par exemple, cet enfant numérique de chez lui, il pourrait dialoguer avec ses copains et avec ses professeurs tout le temps. Tu aurais difficulté? C'est sûr. Mais il peut parler tout le temps. Il pourrait même atteindre les classes, transmis la même classe que les autres sont en train d'attendre là à l'école. Il peut attendre par l'ordinateur, parmi l'Internet. Il peut, de chez lui, fréquenter les bibliothèques du monde. Il peut faire des cours dans des universités au monde, s'il pourrait faire des universités. Harvard, MIT, tous ont des cours à distance. Il pourrait aller au cinéma par la télévision chez lui. Mais pour attendre ce qu'il veut à travers des systèmes comme Netflix, il pouvait choisir quoi faire avec son temps. Mais au même temps, ces garçons-là, ils probablement lisaient moins que Didier. Il avait plus d'informations, moins de formations. Il n'avait pas du temps pour réfléchir. Il était toujours en mouvement intellectuel. il utilisait pas mal de games. Et je ne trouve pas que ça soit un avantage du point de vue intellectuel. Il peut aller au cinéma de chez lui, mais probablement il va voir beaucoup de films et pas du tout avec message éducationnel. Alors, il y a des avantages, mais du point de vue de la formation, peut-être pas beaucoup. Ça, le monde numérique peut amener pour un bon chemin ou un mauvais chemin. Marielle a parlé d'une chose que j'aimais bien, que c'est l'appropriation que l'éducation populaire fait, des citoyennes professionnelles critiques technologiques. J'ai lui demandé sur la culture. Et je crois qu'on n'a pas entendu bien. Quand je parle d'appropriation de la culture, c'est la personne s'approprie de la culture. Je crois qu'elle a entendu la culture s'approprie de la personne. Alors, la domination de la culture sur la personne. Donc, j'entends que c'est faire la personne avoir approprié la culture. Jean-François, il a dit une chose que j'aimais bien, que c'est beaucoup d'informations. Ne veut pas dire beaucoup de connaissances. Nous pouvons avoir beaucoup d'informations et pas beaucoup de connaissances. Mais ils font transmettre connaissances. Patrick Truguet, il a parlé sur la combinaison entre éducation et culture et les besoins de choisir bien les outils. Et je suis d'accord. Si on utilise pas d'une manière bien les outils, on est dominé. Il y a pas mal de gens dominés par les mobiles. Mobile, on dit, non? Au cellulaire. Ouais. Il y a pas mal de gens dominés par ça. Peut-être eux-mêmes. Et alors, je vais poser une question que je n'ai pas eu le temps. C'est si au futur, on va avoir de la musique, de la peinture, du cinéma qui ne soit pas numérique. Ou les arts vont être dominés par la raison numérique, par les algorithmes. Si vous regardez bien la photo aujourd'hui, c'est presque ça. Nous avons la photo, c'est tout à fait numérotisé, on peut dire ça. Au lieu d'érotiser, numérotiser. Alors, on change de la sensation pour la logique. Ça n'est pas bien. Mais je pose la question. Je pose la question. Est-ce qu'on va avoir un art qui ne soit pas numérique au futur? Il a dit bien, il faut avoir avec le numérique, pas le numérique ou pour le numérique. Il faut avoir l'idée que ça peut devenir pour et par le numérique. On peut arriver à un moment où la beauté soit définie par des algorithmes numériques et pas par la sensibilité de la personne. On peut arriver à ça. Il faut penser quand même dans ça comme un défi. Et finalement, l'art du futur sera fait avec des outils numériques, avec des risques d'une esthétique numérique ou pas. C'est très tôt pour dire. Et ça va dépendre de l'éducation, pour que les garçons puissent définir l'esthétique qu'ils veulent et utiliser le numérique pour faire cette esthétique qu'ils veulent. Peut-être cette esthétique, ça va être très différent de la nôtre. Ça pourrait être. L'important, c'est ça va continuer comme on a fait des hommes, des êtres humains. On dit les hommes, c'est un peu machiste ou beaucoup machiste. C'est des êtres humains ou sur les êtres humains. Ça, c'est le défi. L'éducation de l'éducation doit définir comment faire ça. Et c'est ça qu'on va essayer, ces groupes de 15 personnes que l'UNESCO a nommées. On vient d'être installé le mardi dernier, ça fait une semaine. Je suis un des 15 membres. On va travailler. Comment éduquer? Comment avoir une éducation pour tous du monde, n'importe le pays, n'importe la richesse, et pour tout le monde. Une éducation de chacun, mais avec l'objectif de construire le futur utopique de l'humanité. Je sais que le mot utopique, c'est un peu utilisé aujourd'hui. Et je reconnais que pas mal des utopies qui ont défini auparavant, c'était pas bien du tout. On doit construire une autre. Construire, je dis, intellectuellement d'abord. Ça, c'est une chose. Alors, éduquer l'éducation, c'est mettre tous dans l'éducation. Et cette éducation, c'est pour tout du monde. Avec des outils d'aujourd'hui et de futur, y compris avec un accord avec l'esprit des enfants, avec l'esprit, les goûts des jeunes gens, pour construire les modèles d'utopie du futur qui doit respecter la diversité humaine. Et éduquer l'éducation, c'est ça que je crois qu'on a fait un peu aujourd'hui. Merci. Avec les conférences, le bavardage qu'on a eu. Je crois que c'est un morceau de ce qu'on doit faire pour éduquer l'éducation. Prendre en considération les aspects moraux, les aspects esthétiques, et en utilisant ce qu'il y a de très bon dans le développement technologique. J'aime beaucoup être ici, pas seulement parce que j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup l'espace, mais aussi parce que j'aime beaucoup ce qu'on a discuté aujourd'hui. Pour ça, merci bien toi, qui es toujours en train de mettre ordre, et à toi, Didier, par ta leadership dans ces groupes. Merci bien à tous.
Avez-vous deux, trois mots pour clabouder ou bavarder avec Christophe? Vas-y. Jean-François.
Bon, merci beaucoup. Alors, comme vous êtes brésilien, il est évidemment très difficile de ne pas être très curieux sur la situation de l'éducation au Brésil.
Je vais vous répondre comme j'ai répondu hier à le chauffeur d'un taxi. Il m'a demandé à Paris, il a demandé comment expliquez-vous qu'un pays riche comme le Brésil, des points de vue naturels, soit un pays pauvre et inégal. Et je lui ai dit un mot, éducation. Le Brésil a une mauvaise éducation, très mauvaise, mais pire que ça. Inégal, tout à fait inégal. Les gens riches vont à des écoles très chères, ne sont pas très bien, mais sont bien. Les pauvres dans des écoles très mauvaises. Pourquoi ça? Bien sûr, on peut mettre la culpe dans les politiciens, les gouvernements. Ils sont élus. Je crois que nous avons différentes raisons. J'ai un article avec beaucoup de raisons, mais il y en a deux très forts. Une, c'est culturelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé dans la formation de la Comment dire, mente, la, hein, la, la tête brésilienne, la, la manière de penser. Que nous ne pouvons pas, nous, nous n'avons pas le sentiment d'être un pays avec la vocation intellectuelle. J'ai une manière de montrer ça. Tous les ans, le Brésil entier regarde Zurich, parce que là, on va dire qu'il est le meilleur football player, hein? Footballer du monde. Personne ne regarde Stockholm pour savoir qui va recevoir un prix Nobel. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'information. Il y a des gens qui disent, mais c'est peut-être un préjugé, que c'était la formation catholique pour trop longtemps. Et deuxièmement, c'est l'esclavage qui, pendant 3 siècles et demi, a dit que les Noirs n'auraient pas droit à l'éducation. Aujourd'hui, les pauvres n'ont pas droit à l'éducation. Alors, la mentalité, la formation. Il y a des pays qui sont plus intellectuels que d'autres. La France, par exemple. Nous ne sommes pas. Encore. J'espère que ça va changer un jour. Et le fait que c'est un pays toujours divisé, esclave et pas esclave, noir et blanc, pauvre et riche, fait qu'on laisse tomber le cerveau des milliards de personnes sans éducation. Mais la réalité est que l'éducation n'est pas encore une priorité. Je veux dire plus. J'étais ministre de l'éducation par un an seulement. J'ai lutté beaucoup. Alors, on a préféré de m'envoyer. Je viens de finir un petit livre. Pourquoi nous, la gauche, nous avons perdu l'élection pour la droite? Une des raisons est que nous n'avons pas prendre l'idée d'une utopie. Et la réalité est que nous sommes en dehors du gouvernement et nous n'avons pas un drapeau, on peut dire comme ça, un drapeau. Les gens nous regardent comme les autres en relation à Bolsonaro, mais pas comme un autre monde, une autre conception. Seulement du point de vue de démocratie, ça c'est vrai, du point de vue de des costumes, du point de vue des droits humains. Ça, c'est vrai. Mais du point de la conception, pas. Et j'ai dit dans ce livre que la seule utopie que nous, la gauche brésilienne, pourrait avoir dans ce moment n'est pas une utopie économique. Nous ne pouvons pas changer l'économie du pays dans un monde global. La seule utopie serait de dire l'éducation, ça va être bien et la même pour tous. Par exemple, avoir du courage pour dire, d'ici à 30 ans, on ne va pas avoir d'école privée. La gauche jamais accepte de dire une chose comme ça. Jamais au Brésil. Ni Lula, ni le PT, ni les partis communistes que nous avons. Personne n'a le courage de dire. D'ici, écoute, j'ai dit 30 ans. C'est un projet que j'ai proposé comme sénateur. D'ici à 30 ans, les écoles seront privées. Oh, pardon, seront publiques. Je ne dis même pas étatales. Je dis qu'elle peut avoir un propriétaire privé, mais sous le chapeau de l'État. Et gratuit, l'État paye au propriétaire par les pairs. Nous n'avons pas eu cette courage. Ce que nous avons fait, c'est augmenter le numéro d'étudiants dans les universités. Parce qu'au Brésil, il y a une consommation des diplômes. Une bonne partie des gens qui entrent dans l'université, ce n'est pas pour apprendre, c'est pour avoir un diplôme. nous avons accepté faire ce jeu, ce que j'appelle le néolibéralisme social. Au lieu de dire une bonne école publique pour tous, on va mettre quelques-uns à l'université avec les quotas, on appelle, non ? Avec des quotas, avec des instruments pour entrer ceux qui n'ont pas eu une bonne école. Du point de vue des Noirs, je crois que c'est bon, parce que nous sommes un pays noir avec une élite blanche. Alors, il faut mettre des Noirs à l'université. Ça, c'est une question pas universitaire, pas éducationnelle. C'est une question morale. Mais l'idée de dire, non, nous, on va mettre des pauvres qui n'ont pas étudié dans l'école, dans l'université, ça, c'était pas bien, pas intelligent et surtout pas révolutionnaire. Et la réalité est qu'on a augmenté beaucoup le nombre d'étudiants à l'université, mais la qualité est devenue très mauvaise et ces étudiants n'arrivent pas à finir les cours. Mais c'est pour ça que l'éducation au Brésil, c'est affreuse et c'est pour ça que le Brésil, c'est un pays mauvais du point de vue de la productivité économique et du point de vue de la justice sociale. L'éducation, c'est le vecteur du progrès. Il faut dire pour finir sur l'hypocrisie de l'élite brésilienne que la République a 130 ans au Brésil. Nous avons un drapeau où il y a un slogan écrit. Il n'y a pas beaucoup de pays avec des écrits dans le drapeau. Nous avons que le drapeau républicain a été fait, on avait 6,5 millions de personnes qui ne savaient pas lire. Et le drapeau républicain, il y a une phrase. Aujourd'hui, nous avons 12 millions. Bien sûr, à ce temps-là, c'était 90%. Aujourd'hui, c'est 10%. N'importe pas combien pour cent pour moi. Une seule illettrée, c'est mauvais, parce que je crois que l'alphabétisation, ce n'est pas une question éducationnelle, c'est une question morale. C'est comme torture. On peut dire, aujourd'hui, nous avons seulement 10% des gens torturés. Non, on ne peut pas dire ça. Si on a une personne, c'est immoral. Une personne adulte illettrée, c'est immoral, sauf si c'est une question de sa tête. J'ai dit ça avec tristesse, mais toute ma lutte comme politicien, c'était dans l'idée de faire l'éducation la priorité brésilienne. Mais je ne suis plus politicien.
Ordre et progrès, hein, le slogan. Ordem et, et progresso, c'est ça? Ordem et progresso, le slogan. Le slogan du Brésil. Ordem et progresso, c'est ça?
Le slogan est ordem et progresso. J'ai proposé une loi, une bonne partie des lois que j'ai proposé, personne n'a conseillé, que c'était, il faut changer le drapeau, amener les mots écrits jusqu'à quand il n'aura plus d'illettrés. Mais on n'a pas accepté ça.
Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon. Jean-François, tu viens conclure la... Conclure, j'en sais rien, de dire un mot.
Je vais m'asseoir à côté de vous, en tout cas.
Tu viens, on va mettre notre...
Ah non, merci beaucoup de la réponse.
Bon, ça va faire une jolie photo. Donc, merci à toutes et à tous. Hein. On a évoqué beaucoup de choses cet après-midi. Je vous rappelle que cette journée s'inscrit dans une préoccupation que l'espace Mendès France a pris à bras le corps depuis déjà plus de 25 ans. Nous aurions pu, dans cette maison, nous contenter de faire de la culture scientifique de bon aloi, mais en prenant à bras le corps la dimension historique, l'histoire des sciences, d'épistémologie, et d'ajouter pas à pas, année après année, avec la complicité des collègues de Jean-François à l'époque, de la Maison des sciences de l'homme en cours de création, la dimension sociale autour des sciences, petit à petit, c'est aggloméré toute une série de contributions pour regarder le monde tel qu'il est, tel qu'il évolue, mais également pour intégrer de manière explicite cette question de l'éducation populaire, sans faire de discours sur l'éducation populaire. On a d'excellents intervenants pour nous rappeler à nos fondamentaux, et je trouve ça très bien, mais surtout pour le mettre en pratique, l'expérimenter et le territorialiser, mais toujours avec une vision de croisement dans nos sociétés. Voilà. Donc la présence au sein de l'espace Mendès France, en permanence, de manière organique, tous les jours, d'universitaires, de chercheurs, Université de Poitiers au premier chef, parce que c'est le laboratoire, il date d'il y a plus de 25 ans, mais également les grands organismes de recherche qui viennent sans rechigner, sans poser de problème, ni dans un sens ni dans l'autre, ce qui est assez rare en France. Hein, Jean-François, tu vois comment ça se passe. Il n'y a pas de négociation, on discute de projets et on l'intègre dans un grand projet qui est celui d'une éducation territoriale, territorialisée, etc., etc. Alors après, arrivent forcément les enjeux territoriaux où des collectivités se retrouvent prises dans des effets de mode dont nous avons essayé de nous départir depuis très longtemps. Alors c'est pour ça que quand Patrick, dans son exposé, dit « essayons de faire attention aux effets de mode bon, », de temps en temps, il faut s'y plier. Et quand arrivent des mots comme edutainment, hein, c'était ça, hein, il y a quelques années. Enfin, nous, on n'a pas pris ça. Ouais, ouais. La gamification aussi. Enfin, voilà. Mais tout ça, on les regarde comme des objets. D'ailleurs, on a fait ici, dans cette salle, des réflexions. On a mené des réflexions sur ces mots. Et puis, quand arrive la question des EdTech, labellisé par une région avec un État français, son ministère, qui s'empare de la chose, et un schéma local sur Grand Poitiers qui s'empare aussi de l'acronyme EdTech, mais surtout ce qui est important, c'est ce qu'il va y avoir derrière. Alors, j'ai bien aimé, Jean-François, ce que tu disais ce matin, parce que je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je fais comme ça, c'est vaut mieux être présent incomplètement qu'absent. Donc par rapport à EdTech, c'est pour ça que dès l'an dernier, on a plongé dans la piscine et on a monté un plateau qui s'est bien passé. Et je vous rappelle que, et ça c'est avec Thierry qu'on avait réfléchi à ça, on n'a pas appelé le plateau en question pendant 8 semaines une exposition. On n'a pas appelé éduquer à l'ère du numérique, mais c'était apprendre à l'ère numérique. Apprendre, c'était se placer du côté, techniquement on appelle ça un apprenant, mais se placer du côté des gens. C'est tout bête, hein, mais donc au-delà des chicaneries qu'on aura et dans les mois et les années qui viennent sur l'acronyme EdTech, où ça se trouve il va disparaître, hein, c'est pas grave. Moi, je tiens pour cette maison et dans cette maison au fait qu'on soit présent, que ça soit un point de levier, un point d'appui pour poursuivre ce travail avec nos amis chercheurs, avec nos compagnons de route, mais également le travail qu'on a fait avec les établissements nationaux, en particulier Canopée, pour qu'on puisse explorer, mais dans la dimension dont on a parlé tout à l'heure finalement, qui est de constater l'arrivée massive de grands industriels et de créer des oasis, telles que le dit mon ami Edgar Morin, des oasis de résistance peut-être, mais surtout de réflexion pour monter un discours et des actions qui aillent dans le sens de l'éthique et du partage. C'est pour ça qu'encore une fois, quand hier soir on parlait, moi je t'ai dit spontanément ce que j'en pensais, il y a l'OMC, pourquoi il n'y aurait pas l'OME pour éducation, Christovam, tu es reconnu mondialement et au sein de l'UNESCO, tu es une personnalité emblématique. Sache que dans un petit territoire qui n'est pas un village gaulois, ici à Poitiers, il y a un certain nombre de compétences dans ce microcosme de chercheurs, d'enseignants, d'acteurs de l'éducation populaire qui sont prêts à apporter des contributions. Donc modestement, à partir d'ici, à partir de cette salle, sache qu'on peut envisager des choses.
Et je laisse la parole à Jean-François, puisqu'il a, il a évoqué in fine, Jean-Michel en a parlé. Sache qu'au moment de ce salon international, de ce forum international, cette question de l'éthique, il en sera question. Et si tu acceptes de venir faire un, une intervention au sein de ta commission de l'UNESCO, je pense que je peux dire pour tout le monde que tu es largement le bienvenu, parce que ça donnerait une tonalité supplémentaire que toi tu portes, avec y compris ton intériorité de politicien. Alors tu sais qu'en français, politicien, c'est pas très... voilà, d'homme politique de grande envergure. Voilà, Jean-François, je te passe la parole.
Alors moi, je pense aussi qu'il faut donner toute sa place à l'homme OME ou HO2ME. Les deux sont nécessaires. Un petit retour quand même sur la, la journée. Je crois que c'est important d'avoir des journées comme celle-ci. Alors d'abord, ça fait du bien, on dit toujours ça, mais c'est toujours vrai, hein, de sortir de son petit créneau et de pouvoir échanger et partager avec d'autres qui sont sur d'autres créneaux. Mais justement, l'idée, c'est de ne pas rester dans sa case et de pouvoir échanger, partager. Donc ça... l'espace Amadeus France a très bien organisé ça, ça fait vraiment partie de votre mission. Et c'est très difficile à réaliser, parce que très difficile de venir dans une journée comme celle-ci si on voit cette journée au travers de la profession très exacte, la communauté professionnelle dans laquelle on se trouve. Il faut accepter de passer une journée, on ne va pas faire que de travailler dans, le, dans la... la voie de l'éducation populaire que dans celle de la recherche ou les autres. Une fois qu'on accepte ce à quoi l'espace Mendès France nous invite, c'est-à-dire de se décaler un peu, évidemment, à la fin de la journée, on est très content. Parce qu'on a rencontré des gens que d'habitude, on ne rencontre pas. Parce qu'ils ont parlé de la même chose que ceux sur quoi on travaille, mais pas avec les mêmes avis, pas de la même manière. Enfin, ce sont des banalités, mais ce sont des banalités vraies. C'est extrêmement important. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette journée pour cette raison-là en particulier. Et en fait, c'est exactement les principes de l'événement que l'on va organiser et dont je vais vous parler, mais dont le porteur n'est pas moi. Il est là, le porteur, le directeur de ce programme. C'est Jean-Michel qui s'est exprimé tout à l'heure. Donc, c'est in fine, c'est une manifestation, mais ce n'est pas seulement une manifestation, c'est la manifestation, c'est l'une des manifestations d'un écosystème. Alors, on veut lui donner plus de force, plus de visibilité, plus d'intérêt, en faisant une manifestation plus importante que celle qu'on a organisée les années passées, et parfois depuis longtemps, hein, puisque nous organisons ensemble les mêmes opérateurs de l'État, services de l'État, Université, Espace Mendès France, et j'en oublie. Depuis, moi, à mon échelle géologique, si je peux dire, depuis 1999, nous organisons ensemble une manifestation, au moins une manifestation annuelle sur ces sujets, avec toujours la même idée de faire se rencontrer ces communautés différentes pour qu'elles puissent se parler, puisqu'on sait que ce n'est pas chacun dans, son, dans, sa, dans, son, dans sa case que nous allons pouvoir régler nos questions. Donc, eh bien, chaque année, on essaie de faire un peu mieux, et avec in fine, on va essayer de faire beaucoup mieux. En tout cas, on est beaucoup plus ambitieux, et on a mieux réuni nos forces pour proposer un événement plus riche, plus important, au sens où il proposera un plus grand nombre d'événements, d'éléments, et permettra des rencontres encore plus fortes avec des intervenants tout aussi intéressant que les fois d'avant. Les fois d'avant, ils étaient tout aussi intéressants que maintenant, c'est dans l'autre sens que je devrais le dire. Mais ils seront plus nombreux, donc évidemment, la dynamique sera plus forte. Donc, ça a lieu les 3, 4 et 5 juin 2020. Ça aura lieu aussi en juin 2021, en juin 2022, après ce sera 2023, après on ne sait pas. Et c'est une manifestation qui prend la forme classique de toutes sortes de manifestations où vous êtes déjà allé, avec des entreprises qui présenteront leurs produits, leurs activités, leur façon de faire, leur questionnement, avec des colloques scientifiques, avec de la formation, en particulier des masterclass, avec d'autres conférences, tables rondes, ateliers que celles des colloques qui sont organisées. Bref, un programme extrêmement riche dont vous aurez des éléments de programme très vite. Là, je m'en tourne vers Jean-Michel, très vite, sur le site web de la manifestation qui va sortir très bientôt. Et la réussite de cette manifestation, elle est en partie assurée par ceux qui l'organisent, par nous là, mais elle est aussi en partie et peut-être encore plus dans les mains de ceux qui vont venir. Et donc il faut bien comprendre dans vos milieux respectifs que cette manifestation est faite pour vous, vos collègues et votre réseau. C'est assez facile de convaincre des chercheurs de venir à un colloque scientifique, par exemple. C'est moins facile, on en parlait à midi, de convaincre des collègues qui ne sont pas chercheurs, mais qui se posent aussi des questions et puis qui ont aussi peut-être des réponses et des expériences, à venir les partager avec des chercheurs, par exemple. Donc, on a vraiment besoin de convaincre que non seulement vous qui êtes dans la salle, vous êtes le public ciblé et cible de cette manifestation pour qu'elle réussisse, mais que vos réseaux également. Ce n'est pas pour faire du chiffre, hein, c'est pour donner de l'intérêt et permettre à chacun d'y trouver des choses intéressantes. C'est une démarche engagée. Hein. J'essayais de m'exprimer un peu sous cet angle ce matin. C'est aussi pourquoi j'ai beaucoup apprécié votre dernière intervention tout à l'heure. On veut essayer de faire autre chose que les salons habituels sur le numérique éducatif, qui ont évidemment leur intérêt, mais de défendre les valeurs qui ont été exprimées tout à l'heure, d'éthique en particulier, des valeurs aussi morales. On ne l'exprime pas de cette façon, mais la façon dont vous l'avez exprimé à l'instant m'a percuté un peu, je dirais, parce que c'est exactement ce qu'on veut défendre aussi. C'est d'ailleurs, ça repose sur un mot du titre de la manifestation. Elle s'appelle In Fine. Il y a différentes façons d'expliquer pourquoi elle s'appelle In Fine, mais si vous visualisez In Fine, les quatre dernières lettres, Fine, ça peut se lire et ça se dit Forum international du numérique pour l'éducation. Alors, le pour, il ne se lit pas dans In Fine, mais c'est très important. C'est pas de l'éducation, dans l'éducation, c'est pour l'éducation. Donc il y a un vrai engagement politique et moral aussi, hein, pour l'éducation. Parce que ce que vous avez décrit du Brésil est finalement assez vrai en France aussi. C'est avec les mêmes problématiques, je crois. Et en tout cas, une très grande inégalité, voire inéquité dans l'éducation. Donc voilà, donc vous êtes bien sûr plus qu'invité à participer, vous êtes invité à contribuer véritablement à cette manifestation.
Merci Jean-François. Voilà, donc on va se quitter sur ces belles paroles. On se donne rendez-vous à bientôt. Merci Héloïse pour cette, pour cette journée. Merci Emmanuel d'être venu, de nous avoir rappelé que nous étions les enfants de l'éducation populaire. Voilà, bon retour. Le lieu multiple est déjà parti, de toute façon, c'est parti. Merci. Il y a un coup à boire là-haut, un bout de jus d'orange. Allez. Et puis à bientôt.